Bonjour et bienvenue dans le Jura.
Jura Welcome
est le podcast qui vous permet de partir à la découverte
des pépites de notre beau département.
Avec Jura Welcome,
vous rencontrerez les personnages extraordinaires,
les savoir-faire incroyables
et les talents qui façonnent notre territoire.
Si le Jura vous titille,
plongez-vous avec nous dans ce nouvel épisode.
Jura Welcome.
Valoriser et faire connaître les savoir-faire jurassiques.
Ben c'est parti. Bonjour Thierry, comment vas-tu ?
Bonjour Laurent, très bien, merci. Et toi ?
Eh ben écoute, super. Tu peux pas savoir comment je suis ravi de t'accueillir chez nous, sur notre site de Mont-sous-Vaudrey, dans l'une de nos maisons expo. Mais avant que nous démarrions l'échange, j'aimerais rapidement présenter le podcast aux auditeurs qui le découvrent. Jura Welcome, c'est un des outils parmi beaucoup d'autres que l'association Made in Jura développe pour mettre en avant les différents talents jurassiens. L'idée ici, c'est d'accueillir celles et ceux qui, chacun à leur échelle et chacun à leur, dans leur domaine, font ce que le Jura a de meilleur et de plus singulier. Made in Jura, c'est une association qui vit par et pour ses 350 adhérents et qui œuvre à la promotion de chacun d'eux, du solopreneur aux entreprises les plus emblématiques du Jura. Pour ma part, je me présente rapidement, je suis Laurent Chauvin, je co-dirige avec mon frère et mon neveu une société familiale. Nous sommes constructeurs de chalets et de maisons bois. Depuis 30 ans, j'accompagne nos clients dans leurs projets et j'adore ce que je fais. Mais j'ai toujours aimé pouvoir m'ouvrir aux autres pour m'aérer la tête, m'inspirer et prendre de la hauteur. Pour faire ça, j'ai toujours eu un pied dans l'associatif professionnel et ça fait maintenant quelques années que j'ai la chance d'être l'un des 4 coprésidents de Made in Jura. C'est ce qui me donne aujourd'hui l'opportunité de recevoir des gens comme toi. Alors, je parlais du plaisir de te recevoir. C'est vrai que toi, Thierry, t'es une personnalité singulière, t'as un parcours original, tu vis plusieurs vies, et je suis vraiment super excité à l'idée qu'on creuse tous ensemble. Pendant plus de 18 ans, t'as été un chef cuisinier emblématique d'Arbois, t'as conduit aux destinées de la Balance, qui était une table connue et réputée, puis un jour, tu as décidé de transmettre ton affaire pour consacrer ta vie à l'art, et tu es devenu artiste peintre. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi et comment t'en es arrivé là. Mais avant tout ça, je vais te demander, Thierry, de te présenter à ta manière.
Bien, merci Laurent, merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'être là. C'est très fort pour moi. C'est mon premier podcast, en fait, où on va avoir vraiment le temps long.
Oui.
Je suis aussi très heureux de parce que Made in Jura, j'avais rejoint, je suivais quand j'avais le restaurant. Et puis là, je me suis remis à Made in Jura en tant qu'artiste peintre. Alors, on pourra en parler. C'est un vrai choix d'être en lien avec
le... On va en parler, je te rassure.
Voilà, d'être en lien. Et puis, quelle jolie aventure Made in Jura, vraiment. Donc, c'est vraiment voilà, un grand plaisir d'être là. Alors, comment me présenter c'est toujours difficile. Enfin, ce qui est important aujourd'hui, c'est que je suis artiste peintre. C'est vrai que je pense que je suis à l'état de réalisation qui me parle le plus aujourd'hui à travers plein de choses merveilleuses que j'ai faites, mais je crois que c'est l'instant T et le bonheur d'être là, simplement.
Ok, bah écoute, je te remercie. Alors, deux petites remarques pour ceux qui découvrent le podcast. On nous fait régulièrement des retours sur la longueur de ces podcasts, sur le temps long, ce fameux temps long. C'est clair que l'audio est complètement différent de tous les autres médias où papier, image, on est dans l'immédiateté et dans le sensationnel, là où l'audio nous permet d'aller beaucoup plus en profondeur et d'établir un peu ce climat de confiance. L'auditeur a juste l'impression d'être assis à côté de nous. Donc ça, je trouve ça vraiment très sympa. Voilà. Et ben écoute, tu parles de l'instant T. Moi, ce que j'aimerais, c'est pour que l'on parle de l'instant T, on revienne quand même à un temps T moins quelques années. Donc, tu es originaire d'où ?
En fait, je suis originaire de Myon. Myon, c'est la vallée du Lison. C'est au-dessus de Salins-les-Bains, c'est près du Mont-Poupet. Je suis originaire, mes deux parents sont de là-bas, dont du côté de ma maman, la famille Marle, l'hôtel Marle à Myon. Qui était un hôtel de plusieurs générations que mon oncle et ma tante tiennent toujours aujourd'hui. Et c'est là où j'ai eu mes premiers contacts avec la restauration. avec, je dirais, des premiers contacts ou des souvenirs d'enfance à la fois magiques et à la fois, t'arrives le dimanche, on te donne un petit dessert, puis au fur et à mesure où tu manges le dessert, il y a un torchon qui t'arrive sur l'épaule et tu fais la vaisselle le reste de la journée pour avoir mangé un dessert. Mais c'était, et puis ces auberges qui sont extraordinaires où tout est, enfin, où les gens vivent à l'intérieur de leur lieu. Donc voilà d'où je suis originaire.
Voilà, la question était de dire qu'est-ce qui t'a amené à la cuisine. Je crois que j'ai la réponse, c'est super. Mais à partir de là, du torchon du dimanche après-midi, quelle formation tu as suivie pour
Bah en fait, je suis pas du tout au départ justement à cause de ce torchon de l'après-midi. Il n'était pas question de faire ce métier-là. Enfin, pas qu'à cause de ça, parce que mon papa aussi mon père a été d'origine agricole. Et donc, moi, j'ai commencé à faire une formation agricole, en fait. Je suis allé en lycée agricole, parce que mon rêve, c'était de travailler dans l'agriculture. Dès l'âge, alors ce serait plus possible aujourd'hui, ce que je trouve dommage, mais dès l'âge de 12 ans, donc en fin de cinquième, mes parents connaissaient des agriculteurs et j'allais un mois dans les fermes sur deux. Depuis 12 ans. Et c'était un plaisir, un choix. C'était pas du tout pour subvenir à mes besoins, bien sûr. Et donc, j'ai fait cette formation agricole. J'étais relativement aisé à l'école. Et j'aime mieux le mot aisé que doué. Parce que aisé, c'est quand on, à l'école, on est dans... Ça, c'est... Je vais en profiter pour placer une petite chose, mais...
C'est le but, franchement.
Voilà, je trouve qu'il ne faut pas parler de doué, il faut parler d'aisé, puisque l'école, c'est un milieu particulier où, en effet, si on a le schéma mental pour y être, on peut être très aisé. Mais on n'est pas forcément plus doué que quelqu'un qui va faire quelque chose avec ses mains à côté, voilà, qu'on n'est pas capable, nous, de faire. Donc, j'étais aisé, donc on m'a emmené plus vers des études supérieures, la prépa agronomique, prépa pour être ingénieur agro, et en particulier, j'étais très attiré par la génétique. Et parce que ça reliait, enfin, j'avais quelques facilités. Et en fait, pendant cette prépa, j'ai eu la chance d'avoir une prof de français qui nous a fait écouter des textes du professeur Laborie, qui remettait en cause le fait de ne pas toucher, enfin, c'était dangereux de toucher à la génétique. Et moi, dans le milieu agricole, on était vraiment dans une formation productiviste de la génétique et j'ai eu très peur. Et donc là, j'ai commencé, je me suis retrouvé, j'ai un peu désarmé. Il y avait aussi des phénomènes de mes parents séparés. Enfin, c'était un peu une période complexe. Et donc, j'ai arrêté mes études et j'ai fait ce qui s'appelait à l'époque, à la place du service militaire, une objection de conscience dans une association d'animation rurale. Et pendant ces 2 ans, j'ai eu la chance de croiser, de faire des projets autour du théâtre. Après, je suis allé sur le théâtre. J'ai eu la chance d'être dans une compagnie professionnelle, une petite compagnie professionnelle, mais où j'ai appris beaucoup de choses. C'était du théâtre gestuel, donc la précision du geste, le fait d'être sur scène, on s'excuse pas, on continue. Quand on se trompe, on continue. Enfin, il y a une sorte de choses que je vais utiliser énormément après pour expliquer ce vers quoi je veux aller à mon équipe dans le restaurant. Et donc, c'est tout cet apprentissage-là. Et puis, à un moment donné, je me rends compte que je suis pas vraiment fait pour ça. Il n'y a pas trop de stabilité. Et je croise quelqu'un qui travaille sur le ressenti et qui me dit, mais la cuisine, et là, je cuisinais beaucoup pour moi, j'aimais ça. Et là, je suis allé refaire mes classes 2 mois chez mon oncle qui m'a dit, mais vas-y. Et j'ai passé mon CAP formation pour adultes. Et là, l'aventure a commencé. J'avais 23 ans. À l'époque, on était en région parisienne. On est revenu sur la région. Et puis après, c'était parti, en fait.
D'accord. Donc, on va dire que ton maître a été ton oncle. Tu as eu d'autres mentors, guides, des modèles, des gens qui t'ont inspiré?
Alors, des gens qui m'ont inspiré ou plus des gens que j'ai croisés, en fait. C'est-à-dire que j'ai un modèle les gens qui font du solitaire à la course au large. ça pour moi c'est des modèles. À l'époque c'était Bruno Perron et puis après il y a un autre modèle qui viendra dans la partie artistique qui s'appelle Fabienne Verdier, qui est une peintre calligraphe française qui est allée 10 ans en Chine et qui a fait un livre La Passagère du silence, et c'est ce livre qui m'a transformé ma vie, en fait.
Écoute, on mettra les références de ces bouquins et on reviendra effectivement sur cette deuxième partie artistique. Maintenant, si on revient, d'où t'es venue cette envie et cette idée d'avoir ton propre restaurant?
Ça a toujours été. C'était avec... Donc, j'ai rencontré, donc c'est extrêmement important, je suis avec ma femme depuis l'âge de 19 et 18 ans. Et donc, ça a toujours été d'être autonome, d'avoir notre propre projet ou mon propre projet. Ça s'est dessiné après qu'en fait, c'était plus moi qui avais envie de monter un projet qu'elle. Mais on a toujours eu cette envie, même si elle m'a accompagné. Sans elle, j'aurais rien, pas pu vivre les choses comme je les ai vécues. Ou comme je les vis aujourd'hui, d'ailleurs.
Ouais, ouais.
Mais c'était vraiment quelque chose d'ancré. Donc après, c'est un cheminement. On décide du jour au lendemain de revenir sur la région. Parce qu'en fait, donc, je suis originaire d'ici, mais Séverine n'est pas du tout d'ici. Nous, ce qu'on voulait, c'était partir de région parisienne. Et quand on venait ici, on venait uniquement pour raison familiale. Donc là, la famille, ça ne lui disait pas trop. Parce qu'on était plutôt du genre à essayer de vivre notre vie à nous. Et par son travail, elle était animatrice à l'époque, et elle a eu l'occasion de venir sur la région, et elle m'a dit, mais c'est quand même très beau, est-ce qu'on y va? Et on a tout claqué, on est venu. Enfin, on avait juste une maison sans chauffage, mais on y arrivait.
et donc, est-ce que tu te rappelles de ton premier jour d'ouverture?
De restaurant?
Du restaurant.
Oui, en fait, le restaurant est né suite à une formation sur les vins.
Ouais.
À l'époque, à l'Institut des vins du Jura, au Château Pécaud. Et parce que j'avais fini un cycle de travail dans un petit restaurant où j'étais seul cuisinier, et j'avais contact avec la clientèle, je me rendais compte que les gens pensaient que, en tant que cuisinier, tu connaissais les vins, ce qui n'était pas du tout le cas. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, en plus, la fin de l'histoire était un peu complexe avec mes patrons. Et je me suis dit, bon, je reviens. On était parti en voyage avec Séverine, en voyage de noces, et on était un mois et demi, cinq semaines en Équateur. Et je reviens et je vois cette formation. J'ai pas envie de rattaquer tout de suite en cuisine. Et donc je me dis, bon, je vais aller voir. Et en fait, quand on laisse des espaces ouverts, il y a toujours des choses qui se passent. Et j'arrive, évidemment, je regarde la formation. Les sélections étaient le lendemain. Donc je vais aux sélections. Ouais. Je suis pris, donc je vais en formation sur les vins. Et c'est de là qu'est né le projet de faire un restaurant à Cormets et Vins. Parce qu'il y avait rien qui se faisait. Et donc, le fameux premier jour où, oui, je m'en souviens, parce que, en fait, j'ai eu un accident de voiture la veille.
Ouais, je comprends pourquoi tu t'en souviens.
J'ai ouvert, en fait, j'étais à l'hôpital et il me dit, non, on peut pas vous laisser partir. Et j'ai dit, si, faut me mettre une Minerve. Et ouais, j'avais rien, c'était juste de l'observation et on a ouvert le lendemain. Et on avait ouvert de manière particulière parce que j'ai ouvert mon restaurant. Donc, j'ai monté un projet à l'époque, c'était en francs, 1,5 million de francs, j'avais 10 000 francs. Donc, il a fallu avoir des idées.
Ouais, c'est un sujet qu'on va voilà. Moi, il y a un point sur lequel on reviendra, mais ça, c'est un sujet qui m'intéresse parce que ce podcast, j'espère qu'il est écouté par tout un ensemble de gens, mais notamment des entrepreneurs. Donc, effectivement, partir sur un projet à 1,5 million en ayant 10 000 euros en poche, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Donc, dis-nous un petit peu comment tu as monté ça.
Bah, en fait, il y a eu une très belle rencontre. Qui est Nicolas Vizier, quelqu'un qu'on a un peu oublié, mais qui était vraiment à la base de beaucoup de choses qui se passent sur les vins du Jura aujourd'hui, dont la première percée, qui était le directeur technique, entre guillemets.
Alors, je te coupe, mais Nicolas est un ami.
Dans la génial.
Ou après sa vie dans le Jura, il a basculé dans les Pays de Loire au niveau de l'industrie du bois. Il l'est toujours. Et donc, il a été aussi un artisan du développement du Carrefour du Bois de Nantes et du Salon de la Maison Bois d'Angers. Donc, nous, on l'a rencontré dans sa vie postérieure à celle du Jura. Donc,
génial.
Coucou à Nicolas, ça nous permettra de lui faire passer le lien de ce podcast.
Donc, c'était quelqu'un. Et il m'a dit une chose très bête. Il m'a dit, ce qui paraît aujourd'hui évident avec le crowdfunding, mais il m'a dit, mais écoute, il y a des gens qui ont de l'argent, ils ne savent pas quoi faire leur argent. Donc, les banques vont leur proposer de gagner plus d'argent. Toi, propose quelque chose où les gens amènent quelque chose où les gens vont plaire à vivre avec ton projet.
Voilà. Enfin, avoir du sens dans ce qui.
Voilà.
Dans l'argent.
Voilà. Et l'idée, j'ai la chance de me débrouiller en maths, donc d'analyser, de me promener avec les chiffres assez facilement. Et donc, l'idée, c'était de monter une structuration avec des actionnaires gourmands. Et en fait, il y avait un apport de 1000 euros en 1000 francs, c'est en francs hein, à l'époque, 1000 francs et 9000 francs en compte courant. C'est-à-dire qu'il y avait très peu d'apport en capital pour rester maître chez moi. C'était un statut de SARL. Et la rémunération, c'était des intérêts gourmands. Il n'y avait pas de rémunération d'argent. Donc en fait, les intérêts gourmands, c'était quoi? C'était un ou deux petits avantages au début, mais quand ils venaient manger, mais c'était surtout deux événements importants. C'était un, une vraie AG, C'est-à-dire que j'avais des copains qui me disent « mais t'es complètement barré comme chef d'entreprise, je discutais de mon salaire avec mes actionnaires », parce que c'était vrai. Je leur expliquais tous les problèmes que je pouvais avoir de gestion d'équipe, de choix, etc. C'est-à-dire de faire une vraie AG avec des gens qui n'ont pas du tout le profil entrepreneur, qui étaient là parce qu'ils trouvaient ça rigolo, mais qui se sont pris au jeu. Avec quelques fois, il y a eu des questions un peu gênantes, mais c'est le jeu.
La transparence totale.
C'est le jeu, oui. C'était le jeu, puis j'ai eu la chance dans mon parcours d'animer des réunions dès l'âge de 14 ans, donc c'était pas quelque chose qui me faisait peur d'animer des gens, même si j'étais avec des gens beaucoup plus âgés que moi, plus expérimentés que moi. Et donc ça a été ça, et puis l'autre chose, c'était une soirée, c'est pas venu tout de suite, c'est venu un petit peu après, et l'idée de, à chaque fermeture de restaurant, on faisait ce qu'on appelle la soirée reste, c'est-à-dire qu'on fermait le restaurant tous les ans, je regardais les produits qui restent, et les actionnaires, puis après les clients un peu proches, ou les gens qui tournaient autour du restaurant, qui vraiment nous faisaient tourner, en fait, venaient, ils étaient en cuisine et en salle, et l'équipe était à table. Donc on faisait une sorte de carnaval, on inversait les rôles. Pour moi, c'était une journée de congé, puisque je me retrouvais, des fois, on se retrouvait à 20 en cuisine, avec tous les risques qu'il peut y avoir autour du feu, de tout ça, mais ça faisait une sorte d'ambiance incroyable. Et c'était autour de ça, et ces actionnaires ont suivi le projet. Et puis petit à petit, j'ai racheté les parts parce que pour avoir l'entreprise qui m'appartienne, mais c'est toujours resté des actionnaires de cœur. Et après, il y a eu 6 vignerons aussi, où là, c'était un peu plus dans une relation aussi commerciale, dans le sens où ils investissaient. La contrepartie, c'était bien sûr que les vins seraient à la carte. Et puis avec un suivi, on va dire, ils ont apporté aussi une caution aux banques à ce moment-là.
Ouais, alors ça, c'est vraiment un aspect qui m'intéresse, parce que j'avais effectivement en tête cette complicité que tu avais eue avec des vignerons. Donc on peut dire que t'es un restaurateur, mais tu n'as jamais été qu'un restaurateur. Le métier de chef, il a cela d'antinomique, c'est qu'il faut d'abord être un créatif, le cerveau droit, et je crois que tu l'as pas mal développé. Et ensuite, il faut être un maniaque de l'exécution, avec une rigueur implacable, et je crois que tu excellais vraiment dans ce grand écart. Maintenant, effectivement, tu as aussi cette dimension innovante, c'est que se retrouver dans un restaurant où tu peux acheter des bouteilles au prix de la propriété, du vin que tu as goûté avec le plat, ça, c'est un truc qui, à l'époque où tu l'as fait, était vraiment super innovant. Et encore aujourd'hui, ça se pratique très peu. Donc, tu l'as dit, ils t'ont accompagné, donc c'est au-delà de l'aspect financier, comment cette rencontre s'est faite, comment tu as pu les convaincre d'embarquer dans cette aventure avec toi?
C'était suite à la formation, donc j'avais déjà pas mal de contacts, j'avais une sensibilité au vin, et puis je crois qu'il y avait il y avait une attente, parce qu'il n'y avait rien à l'époque autour des vins du Jura. Ça m'a fait vibrer la Cormézévin, vraiment, et je me suis rendu compte, vraiment, il n'y avait rien, en fait. Je veux dire, il y avait, historiquement, il y a toujours eu un lien très fort, que ça soit entre le papa Genet était aussi meilleur sommelier de France, Jean-Paul était aussi passionné, enfin, connaissait les vins, mais ça partait pas du vin pour faire le plat. Ça se faisait pas à l'époque. Et encore aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils le font. C'est souvent une démarche intellectuelle. C'est un peu plus mes recherches d'aujourd'hui sur ce qu'elle est, parce que j'ai évolué dans ma méthode de dégustation au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, je me rends compte en fait que ça demande vraiment de rentrer dans quelque chose d'intime avec la matière, d'intime avec le vin, et que souvent on a une approche intellectuelle du vin, surtout en cuisine. Et je trouve que ce qui était important, c'était ça. Il y avait cette sorte de vibration. Puis ils se demandaient d'où je venais, le fait de vouloir mettre des gens ensemble pour montrer sa propre boîte, eux qui montraient leur boîte eux-mêmes. Oui. Et en même temps, on est le Jura. Le Jura, on s'entraide. Ça, il y a rien à faire. C'est l'histoire du Jura. C'est les fruitiers racontés, c'est le nez dans le verre des jeunes vignerons aujourd'hui, où les anciens sont venus avec leur liste leur liste énorme de clients, enfin énorme, leur liste de clients qu'ils ont partagé avec les jeunes. Ça peut être d'autres choses, en fait. Je crois que ça fait partie de l'ADN du Jura, d'être solidaire. Et je crois qu'il y avait ça, puis il y avait je pense que c'était aussi Une des choses qui a fait, c'est que quand on attaquait sur le compte de résultats, j'avais fait des prévisions de combien je devais vendre. J'avais fait mes propres tableurs Excel de déjà selon ma structure des menus, combien je fallait que j'en fasse, quelle taille de personnel. J'étais capable de sortir les chiffres aussi, parce que c'est pas des, je veux dire, c'est des professionnels les vignerons, hein, c'est aussi. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui a joué. C'est-à-dire que le projet était global. C'est, il y avait un côté rêve. Et un côté très très
terre à très terre cartésien. Et paysan, ouais, de dire tout, voilà, tout à fait. Tout ok, à fait. On n'y va pas pour rien. Ok. Alors, bon, chaque cuisinier a son savoir-faire. Je crois que toi, tu étais très concerné par par les cuissons, non? Enfin, il me semble que tu avais une rigueur implacable, une utilisation
en fait,
de la. La...
C'est marrant parce que cette image, c'est pas, t'es pas le premier à me dire la rigueur. En fait, moi, j'ai de l'exigence, j'ai aucune rigueur.
Alors,
je fais exprès. Aucune, c'est pas vrai. Mais je vais t'expliquer pourquoi. C'est-à-dire que ce qui a amené aujourd'hui, c'est surtout que c'est, moi, ce qui m'intéresse, c'était le process. C'est-à-dire l'honnêteté du, non pas le processus, mais le process. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est dans quelque chose, présent à ce qu'on fait, et qu'on est complètement dans ce qu'on fait. On se trompe, tant pis. On assume. On offre le plat, on offre le truc. Mais on ne met pas en place des processus. Avec un thermoplongeur qui va te dire la température de cuisson, elle est comme ça, dans un sac sous vide, et puis après, on marque le truc et on assemble. Mon piano, c'était une grande plaque de fonte, à gaz, pas à bois, hein, mais c'était le même principe, que des cocottes en fonte, que des poêles en fonte, et tout était au visuel, au toucher, parce que, pareil, je suis très vite sorti du cuisinier qui goûte, parce qu'en fait, on n'a jamais le même goût au long, et j'ai assumé qu'un plat soit différent en début, en fin de service, qu'il soit différent suivant l'heure où tu le fais, et que tu dois ressentir qu'est-ce qui se passe dans ta salle, et tu cuisines par rapport à ça. Et non pas par rapport à toi, ce que tu as défini dans ton goût, qui est le tien, le plat. Donc en fait, si tu veux, la rigueur, entre guillemets, elle est sur l'exigence. Elle n'est pas sur l'image qu'on peut avoir d'un tous les, je pense, les apprentis avec qui j'ai formé, pour être en parler, ou les gens avec qui j'ai travaillé. L'idée, elle est de mettre les gens en situation de confiance, mais de confiance, d'exigence, mais pas avec une sorte de couperet. C'est surtout ça que j'ai essayé de sortir, en fait. Voilà.
Écoute, moi je vais te dire, j'ai une anecdote, alors tu t'en souviens certainement pas, hein, mais je suis venu chez toi un samedi soir avec un couple d'amis, et bon, souvenir d'une volaille au vin jaune, hein, donc forcément j'en ai encore les papilles, là tu vois, c'était le marqueur de la maison je crois, hein, oui. Mais bon, voilà, bon, samedi soir, salle pleine, et je suis avec un ami qui travaille chez Seb, et puis vient le moment où effectivement, fin de service, tu sors pour faire le tour des tables. Alors, ça peut avoir un côté très marketing chez certains, hein, voire même un peu égocentré. Chez toi, il y avait vraiment une réelle empathie et vraiment une écoute et avoir le feedback de ce que les gens avaient ressenti. Je trouvais ça franchement assez génial. Alors, forcément, la discussion vient assez rapidement à tourner autour des casseroles parce que mon ami étant chez Seb. Et puis là, on découvre un passionné qui nous propose d'aller visiter sa cuisine. Alors là, pour moi, c'est vraiment, je suis un cuisinier plus qu'amateur, mais j'aime bien ça. Mm-hmm. C'est vraiment, on me propose de rencontrer Zinedine Zidane, quoi. Enfin, je veux dire, je rentre dans la cuisine de Thierry Moine, et là, et petit détail, c'est 23h30, et le lendemain, tu fermes pour les vacances. Donc, je veux dire, tu pourrais avoir d'autres chats à fouetter, ou juste l'envie de dire... ce serait pas mal qu'il débarrasse le plancher. Et là, on est dans une conversation lunaire où tu nous expliques ta manière de travailler. Tu nous montres justement cette plaque en fonte qui a, je crois, une histoire parce qu'elle a pas perduré aujourd'hui, mais tu nous raconteras ça. Mais franchement, de voir des étoiles dans les yeux quand tu nous parlais de ta manière de travailler, de laisser ces tables de cuisson toute la journée à température. Enfin, voilà,
oui, moi j'avais... Et la nuit, H24.
Voilà. Donc ça, c'était vraiment une originalité et ta créativité à toi, quoi. Donc je trouve que ça, c'était vraiment assez génial.
Merci. C'est vrai que, si tu veux, je vais être des fois un peu dur avec mes anciens collègues, mais maintenant que je suis plus dans la partie, je peux le dire. Moi, j'aime pas le pouvoir des vestes blanches, si tu veux. Quand les chefs, je trouve qu'on est restaurateur. Chef, c'est l'individu qui est artiste. On va dire, c'est comme un acteur dans un film. Mais c'est pas le réalisateur. Le réalisateur, c'est le restaurateur. Et ça, c'est ce qu'on oublie. Et donc, quand je vais en salle, À la fin, c'était plus facile, mais au début, je m'en suis pris beaucoup parce qu'on a fait des choix. J'ai toujours fait des choix assez radicaux à des éleveurs, en assumant de ne pas avoir des fois des cuissons qui ne correspondent pas au code, enfin des choses comme ça. Ou une époque, on en parlera peut-être, où j'avais arrêté de travailler avec le sel, j'avais baissé, voire annulé le sel. Pas des choix. Et en fait, d'aller en salle, c'était d'avoir les retours. C'est de comprendre, de ressentir. Et puis surtout, c'est aussi rassurer mon équipe de salle. C'est-à-dire, qui prend les salves, c'est moi. Et c'est à moi de les prendre. Et d'ailleurs, avec quelque chose de, qui était très clair dans l'organisation du travail, c'est que j'aimais bien cette... Ça, c'est mon concept hein, de perso, mais de la pyramide inversée dans la communication. C'est-à-dire que pour moi, s'il y a un problème, il doit le plus t'es élevé dans la hiérarchie. Donc, en général, plus t'as d'aisance avec la communication. Faut pas, c'est comme ça. C'est pas bien, c'est pas un jugement, c'est un fait. Donc, plus tu es, entre guillemets, et pareil, j'aime pas le mot élevé, mais plus tu as de responsabilité, donc plus tu dois être à l'écoute. Et plus c'est toi qui dois faire l'effort de communiquer, puisque tu as les outils. Donc, en fait, c'est la pyramide inversée. C'est-à-dire, quand il y a un problème, il doit retomber tout de suite à la personne qui est responsable du dessus, jusqu'à ce que ça devienne à toi, même si c'est en plein service. Et c'est pas à deux personnes à la base à gérer ensemble un problème. Et donc ça, c'était une dynamique que j'ai structurée par la suite, mais qui dès le départ était dedans. C'est-à-dire que moi, j'allais en salle, je voulais que les gens, les serveurs soient protégés. C'est-à-dire que s'il y avait des problèmes, c'était avec moi. Ça il y a eu deux anecdotes incroyables. C'était au début, parce que j'avais fait le choix dès le départ de, quand on faisait du foie gras, on mettait pas que du pain blanc. Pas de pain toasté, pas de pain brioché, que du pain blanc. Parce que c'est comme ça que je trouve que le foie s'exprime. Un pain toasté, c'est, si c'est froid, c'est pas bon. Donc si c'est chaud, ça fait fondre le foie gras. Donc c'est, alors que dans le foie gras, on cherche le gras, justement, la matière. Donc ça, voilà. Et je me souviens, vraiment, j'ai souvenir de sa tête de ce monsieur qui est très étrange gentil, mais à un moment donné, il voulait me voir, je voir le chef, puis un côté, tout ça, ça faisait 3 ans que j'étais installé, je crois. Ouais, 2-3 ans. Et il me regarde et me dit, moi, j'ai jamais vu ça, monsieur, me refuser des toasts avec mon foie gras. Je suis chef depuis 25 ans, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça de la part d'un cuisinier. Et je le regarde, j'étais un habit de cuisine, et je le pensais sincèrement, je ne suis pas cuisinier. Je ne suis pas cuisinier, je ne suis pas dans vos codes. Si vous êtes cuisinier, c'est dans vos codes, dans vos trucs, ça ne me dérange pas. C'est pas grave. Moi, je crée un espace-temps. Mon modèle, si tu parlais des modèles, par exemple, c'est le cirque plume.
Ouais, d'accord.
Ça, j'oubliais. Cirque Plume. D'accord. Ah, ça, Cirque Plume. Oui, c'était vraiment aussi, pareil, je les ai connus très jeunes. Je les ai croisés très jeunes, des 86-87 dans ma vie. Et après, chaque fois, j'avais adoré Bernard Campan qui disait, il faut 6 mois pour travailler un numéro et 6 mois pour travail derrière pour qu'on voit pas les 6 mois de travail. Mm-hmm. Je sais pas si j'étais clair dans mon.
Oui, tout
truc,
à fait. Voilà. Ouais, ouais, ouais.
Et c'était ça. C'est-à-dire que moi, je créais un espace dans, et je disais aux gens, à mon équipe, d'ailleurs, que ce soit salle ou cuisine, vous rentrez dans l'espace du restaurant, vous êtes des fonctions, on est dans nos rôles, mais on n'est pas acquis à tel point où tout le monde se vous voyait, par exemple.
Alors, quel type de manager tu étais?
Je vais demander à mes gars, mais j'ai appris, dans ma jeunesse, trop affectif, certainement très social, mais à la fois très exigeant. Et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Jean Ricou, qui est parti du Jura, qui est devenu un des plus grands directeurs d'hôtel du monde, et qui est juste venu m'aider en consulting, mais parce qu'il adorait la balance, et que, voilà, donc vraiment un grand, grand monsieur. Et en fait, le retour que j'ai eu m'a appris à pas affecter. Lui, il avait des méthodes un peu à l'américaine, hein, et donc il m'a appris à retirer l'affect. Mais à un moment donné, je lui dis, OK, l'affect, je suis d'accord, mais pas déshumanisé. Donc, être humain, être efficace, être précis, être pointu. Donc, par rapport à l'époque, moi, très vite, pour donner un ordre d'idée sur où j'étais prêt à aller, alors que j'avais un restaurant, j'ai mis en place les 35 heures.
Ouais.
Donc, on comptait toutes les heures de travail, ce qui amenait à des analyses assez pointues. De quand fallait du monde ou pas du monde, parce que moi j'ai connu dans le restaurant où t'as 2 couverts, puis on te dit fais rester jusqu'à 2 heures, parce que peut-être il y a un quart de japonais qui va venir. On sait très bien que c'est des périodes où personne va venir, donc tu fais 2 heures pour rien, mais comme ils sont pas comptés. Donc voilà. C'est aussi des choses où tu organisais le nettoyage, qui s'intégrait, parce que souvent dans les restaurants, tu n'intègres pas le nettoyage dans le travail, c'est juste à la fin.
Ouais.
Donc tu intègres, donc si tu intègres dans le temps de travail, ben tu dis la cuisine est petite, pas besoin d'être 2, hein, ou d'être 3. C'est chacun nettoie son poste, puis il y en a qu'un qui fait la cuisine, et puis on fait des tours de fermeture, comme ça tu peux partir plus vite. Et après, je peux aussi parler des défauts des 35 heures. Enfin, je peux tout à fait dire la qualité, que tu es obligé d'être sur une rentabilité et de faire perdre des espaces vides.
Oui.
Et le truc qui était une limitation d'avoir une période, d'avoir été trop enfermant dans ce truc où faut pas qu'il y ait d'espace temps mort, quoi. Tu vois, de retrouver cette souplesse. Et donc, c'était ça qui est ça m'a intéressant. Donc, je pense qu'il y avait à la fois une volonté de faire très attention aux conditions sociales pour garder des gars et qui me permettait d'être très, très élevé dans l'exigence. Par exemple, ce que je disais sur le comportement, si, quand je parlais tout à l'heure où les gens devaient dire les problèmes, je pouvais très vite mettre un avertissement à quelqu'un qui commençait à tchatcher entre eux d'un problème sans le remonter.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y avait, pareil, on était sur le vouvoiement, les gens se tutoyaient hors du travail, ça me dérangeait pas, c'était tout le monde vouvoiement et prénom. Comme je leur disais, des jeunes qui arrivaient, qui me disaient « Chef, je dis, vous n'avez pas besoin de me le rappeler, je le sais. Et si vous ne le savez pas, il va y avoir un problème. » Donc, c'était la base. Et après, le vouvoiement, pourquoi? Parce qu'on a un métier d'affect, que ce soit salle ou cuisine ou la plonge, peu importe. On y met tous du cœur, au moment où on y met. Et il faut savoir qu'en plein service, quand il y a la pression, on se donne des ordres les uns aux autres constamment. Et quand tu dis « tu », si c'est un moment donné où tu as un bon qui t'arrive, un truc, c'est pas le bon moment que tu reçois l'autre, que ce soit dans un sens, ça le cuisine ou à la plonge, peu importe. Si tu dis « c'est un moment où tu es un peu en danger », si on te dit « tu » à ce moment-là, c'est alors que vous, ça te rappelle que « ah oui, c'est pas grave, juste il me donne le... » Et ça, cette idée-là, elle était venue de... C'est Bruno Perron, parce que les frères Perron, il y en a plusieurs. Hein,
oui, il y en a Perron.
Il y en a pas mal, mais c'est Bruno Perron, j'avais lu son truc, j'avais adoré, il disait... Alors, il se tutoyait sur le bateau, bien sûr, parce qu'il partait comme ça. Mais par contre, il imposait à chaque manœuvre le « s'il vous plaît, merci ». Et ces gars témoignaient. Il disait, au début, il nous faisait... On va passer les mots ici, mais vraiment, il disait bien crûment.
Oui, forcément, clairement, comment.
Et en fait, il racontait après, pendant les 40e ou les 50e rugissants, il dit comme c'était important. Il dit, on était là, c'était tout, on était sous tension, parce qu'on était là pour battre des records, parce qu'on partait encore du monde autour, sur les multicoques, où il faut être à fond tout le temps, ils n'ont pas une seconde à eux. Et il disait, c'était hyper important. C'est-à-dire qu'on était là, s'il vous plaît, même si il nous énerve, parce qu'il n'y a pas la réaction assez vite, machin.
Ouais.
Et merci, et voilà. Et ça, en fait, ça maintenait, les gars ont témoigné comme quelque chose de positif. Et après, quand moi j'ai instauré ça, j'ai pas fait tout de suite, il a fallu le temps que je comprenne tout ça. Et ben, ça a amené vraiment cette chose-là. Et puis, il y a une autre chose dans, tu sais, un métier où on donne constamment des injonctions, en fait, qui peuvent être paradoxales par moment, donc c'est compliqué. Et si tu fais tu, ça fait comme une sorte de mitraillette, tu. Et si tu fais vous, c'est vous. Et donc, on y va, vive, on glisse, allez, hop. Et voilà.
Très beau, très beau, très beau. Donc, je crois que la formation, la transmission a toujours été un peu au cœur. Enfin, comment tu as amené des gens à ce métier, comment tu as fait qu'ils y restent, justement, ce côté social qui est quand même assez sidérant dans ton métier. On le décrit encore aujourd'hui en 2024, mais là, on parle d'une époque qui est bien avant Covid. Donc, voilà, transmission, formation, comment ça rime à tes yeux?
Déjà, j'aimais bien prendre des jeunes que les gens ne voulaient pas. Ça faisait partie des parcours. Je trouve souvent que c'était des jeunes pas toujours faciles, ou des gens, hein. J'ai eu des gens en insertion aussi. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'assez... que j'ai trouvé extrêmement intéressant, parce qu'on avait une matière à faire... Il y a de la matière à travailler. Donc, c'est facile d'emmener des gens quand on a de la matière. C'est plus difficile de les emmener par l'intellect, je trouve. Et puis après, j'avais des process très simples, en fait. C'est-à-dire par exemple, ils commençaient le premier truc, c'était d'éplucher, d'être capable d'éplucher une caisse de carottes. Et tant que tu n'étais pas capable d'éplucher la caisse de carottes en temps et en heure, si on avait besoin, ou d'un légume, peu importe, ou d'une caisse de pommes, eh ben, on passait pas à autre chose. Mais après, la caisse de carottes, quand tu n'avais pas fini à l'heure, tout le monde venait aider pour que tu l'aies fini. C'était pas une punition. C'était, fallait passer par là. Ouais. Pareil pour les taillages. Et pareil, donc tu venais aider pour que tout le monde finisse à l'heure. Puis quand les jeunes arrivaient, qu'ils voyaient, parce que j'utilisais les temps morts du fait des 35 heures.
Bien sûr.
Et les jeunes extras, les jeunes filles en extra, je leur apprenais pour utiliser les temps morts qui sont là en début de service où il n'y a pas grand chose à faire. Elles venaient tailler des légumes à l'arrière. Donc elles adoraient, elles apprenaient à servir d'un couteau, mais comme un cuisinier, hein. Les taillages, les petits taillages en mirepoix, en brunoise, tout petit, en apprenant à manier un couteau, et puis je leur prêtais mes couteaux japonais, ce que je prêtais pas aux apprentis, mais comme ça, les filles, elles étaient, je travaillais beaucoup avec des filles en salle, c'est pour ça que je dis les filles, mais, mais il y avait une sorte de respect, de reconnaissance.
Ouais,
ouais. Et c'est vrai, quand il les voyait, des fois, t'es un jeune apprenti qui arrivait en cuisine et il voyait une jeune femme de 18, 19 ans, tout sourire, qui prenait les légumes, qui allait plus vite que lui, je peux te dire que...
Ouais, ça booste un petit peu.
Ouais. Puis il suffit qu'il ait 17, 18 ans, qu'il était à côté d'elle, et voilà, c'était, tu vois, il y avait une sorte de...
Émulation entre eux.
Émulation, voilà. Ouais, ouais, et, okay. Et ça, c'était un peu ma manière de faire. On faisait des réunions tous les lundis aussi, où tout le monde pouvait s'exprimer.
Ouais.
Tout le monde pouvait amener des choses. Et je disais aux gens qui arrivaient, que ce soit aux jeunes ou aux gens, aux apprentis ou aux salariés, qu'avant un cycle d'un an, de toute façon, on vous écouterait, mais on ne mettrait rien en place de ce que, a priori, parce qu'il faut déjà faire un an
ouais.
pour voir le cycle,
ouais.
puisqu'on était sur un cycle d'un an avec la saison. Et après, oui, c'était une transmission. Je suis très fier. Il y a Théo Pierre qui a repris le restaurant Les Arcades à 23 ans. C'est un de mes derniers apprentis. Et d'ailleurs, une anecdote à ce niveau-là, c'est un jeune qui vient en stage de troisième. Ou même non, déjà, il vient, je crois, parce qu'il faisait des stages l'après-midi de quatrième parce qu'il n'allait pas trop bien à l'école. Et à l'époque, ils avaient une demi-journée. Donc, il vient. Et puis, il arrive le moment où il veut faire un contrat d'apprentissage. Et il me dit, donc à l'époque, il a moins de 18 ans. Et je dis, bah ok, c'est bon, j'avais une pâtissière. Je dis, c'est bon, je ne prenais plus d'apprenti de moins de 18 ans à cause des lois. Je trouve ça trop risqué.
Compliqué.
Compliqué. La personne, juste avant la saison, me dit, ma pâtissière s'en va. Et... je le convoque avec son papa et son papa donc le prévient et puis son père me rappelle après mais il est en larmes. Bah écoutez venez et je le dis écoutez ok je vous prends. Je regarde Théo, je dis tu sais tu vas faire des heures. Alors moi je faisais mes heures, je payais toutes les heures d'apprenti, j'ai pas le droit de payer en heures sup mais je les payais en prime, c'est-à-dire ils doublaient leur salaire très souvent.
Ouais.
Et je dis, bah écoutez, je dis à son papa, je dis, le seul truc, c'est que je veux que vous témoigniez, si jamais je me fais choper, parce que je vais être vu comme étant, bien sûr, un exploitant. Je dis, juste que vous témoignez que votre fils voulait. Il me dit, non, mais je peux vous signer. Ah, mais j'ai signé le papier, ça sert à rien. Juridiquement, c'est moi qui serai responsable. Hein, donc, c'est moi que ça m'a embarqué. Et je lui dis à Théo, je dis, écoute, dans 2 mois, tu sauras si t'aimes ça ou pas. Et tu vas bosser comme un malade, enfin comme un malade dans les règles, je veux dire, il avait 2 jours de repos.
Acceptation, bien sûr.
Acceptation, mais c'était pas 35 heures.
Bien sûr.
C'était une quarantaine d'heures sur 5 jours, ça, il était mis dans 40-45 heures. Et puis investi à fond, quoi. Je dis, tu vas être vraiment dans la tourmente.
À peu près, ouais, on y va.
Dans la tourmente, quoi. Ouais. À la fin, donc il avait appris à faire le coco vin jaune, au bout il s'y mettait. À la fin, il savait faire, il savait tenir, pratiquement à la fin de la première saison, il savait tenir le poste de pâtisserie, ce qui est le premier poste sur lequel je mettais les apprentis pour qu'ils apprennent à faire des assiettes. Et moi, en pâtisserie, j'avais vision sur le poste, c'était conçu pour. Donc, je pouvais intervenir à tout moment, puis quand on était sur la fin du repas. Voilà, j'avais ma plongeuse aussi qui était formée en pâtisserie, donc il y avait une sorte de...
Ça avait tout d'équipe, quoi.
D'équipe, oui. Donc, on pouvait... Voilà, j'ai eu une vision. Et puis, à 23 ans, il a ouvert son restaurant, quoi. Voilà. Et ça, si tu vas pas... C'est... Pourtant, je te le dis, je suis un social, je suis un respect. Quand tu disais quel manager j'étais, j'avais des contrats, j'ai un problème avec un salarié, comme je comptais toutes les heures, tout était au clair, et j'attaquais par rapport au contrat. Et puis, ça m'arrivait de licencier des gens. Et puis, j'ai licencié, je peux toujours leur dire bonjour, quoi.
Oui. Voilà. Oui, c'était clair. C'est vrai que c'est pas forcément toujours la norme de ce que l'on entend dans les métiers de la cuisine, hein, qui sont des métiers durs. Voilà. Donc, je trouve que c'est effectivement assez intéressant, encore une fois, de voir que tu as pratiqué ça à cette époque-là. Alors, t'es cuisinier. T'as une vie parfaitement rythmée. Ton affaire marche. T'es reconnu par tes pairs, le balai est bien réglé, et là, tu décides de passer à autre chose. Alors, d'où ça vient, pourquoi et comment? Parce que ça, le processus du changement, ça m'intéresse. Être capable, comme ça, en pleine vitesse, de pouvoir dire, bah, je vais faire autre chose.
Alors...
C'est peut-être pas venu aussi rapidement, hein, mais...
Non, c'est intéressant. Par contre, tout de suite dire ce que c'est une chose qui est importante, tout ça c'est possible aussi entre guillemets confortablement, je sais plus si c'est le mot, Mais confortablement, effectivement, parce que je suis avec une femme extraordinaire qu'on voit pas beaucoup. Mais je veux dire, quand tu décides d'arrêter une entreprise qu'en pleine bourre, que les enfants vont faire des études et que tu dis...
C'est une vraie question pour moi. Voilà. Vois, le moment où tu prends cette décision, on y reviendra peut-être, c'est voilà, comment elle le prend, comment les enfants le prennent. Et puis, faut que j'aille ce risque, quoi.
Oui, en fait, oui, t'as ta femme qui te dit bah oui.
Bah oui,
tu veux passer à autre chose, donc c'est que ça s'habite en fait. Alors comment ça se passe? Dès le départ, donc Séverine était avec moi en restaurant, elle a juste travaillé à l'accueil, à la conception des cartes. Elle était pas en salle sauf sur les soirées spéciales, parce qu'au départ on avait tout de suite fait aussi, à l'époque on faisait des mailings en fax.
Une autre époque,
mais donc elle s'occupait de tout ça. Et la vie du restaurant. Et donc, déjà, on avait une habitude de lier art et cuisine. Et on faisait en particulier des expositions de peinture, et je faisais des menus en fonction des expos. Et en 2002, par là, il y a un peintre qui vient exposer, peintre jurassien, qui s'appelle Éric Mouret. Il expose, je fais un menu en fonction des peintures. Il me voit travailler en cuisine, il me dit « Mais il faut que tu prennes des cours de dessin. » Je dis pas du tout des cours de dessin de peinture. Je viens pas du tout de ce milieu-là, encore moins sur l'art contemporain. Je dis, moi, mon père était communiste, donc l'art contemporain, c'est de la bêtise pour bourgeois qui a besoin de dépenser de l'argent. Je dis, c'est vraiment, nous, on était avec, autant il lisait, il était cultivé dans son milieu, on va dire, dans le milieu ouvrier, il savait de quoi il parlait. Mais, je veux dire, l'art, c'était le puzzle de 1500 pièces, le puzzle de 2500 pièces qui était affiché, qui devait demander une performance, et c'était des photos de paysages, pas des reproductions d'art contemporain, ou même d'art. Donc, c'est pas du tout mon truc, et je lui dis, c'est des cours particuliers qui sont avec une technique mise au point par Betty Edwards, qu'on appelle dessinée par le cerveau droit. Aujourd'hui, bon, on en parlera plus tard. Ouais. Voilà, on y reviendra. Cerveau droit. Et en fait, puis comme ça, c'est un des trucs toujours, plus ou moins, c'est que j'aime bien aller là où c'est pas prévu. Ça, j'ai toujours ce truc-là. Donc, je prends des cours, quoi. Mm-hmm. Évidemment. Donc,
en plus de ton.
De la cuisine, oui.
De la cuisine.
Oui. Okay. Donc ça, je m'organise.
Tu fais ça quand, comment?
En fait, il y a une chose qui est importante par rapport, ayant vécu la cuisine comme étant dans la vie familiale, moi, le premier truc, ça a été de séparer. C'est-à-dire que je n'habite pas où je travaille. Et quand je sors, on en reparlera après, ce qui aujourd'hui est un gros changement pour moi, quand je sors, c'est terminé. Donc, je travaille 12 heures, et moi, c'est quand même 12 heures, sachant que j'étais pas un gros dormeur à l'époque, il me reste quand même du temps. Et une des choses qui était fondamentale, c'est d'emmener mes enfants à l'école et d'aller les chercher à l'école.
Ouais,
donc, d'accord. Je faisais le 4h30-6. Donc, entre 14h30 et 16h, je pouvais aller prendre des cours.
D'accord, ok.
Et donc, ça, c'est vraiment un événement important. Et pour l'anecdote financière, je me souviendrai toujours, j'ai eu une année très difficile en 2001. À l'époque, les troisièmes années étaient fondamentales dans les entreprises. Et mon banquier m'appelait et je lui dis, il m'appelle à un coup où je faisais ma sieste chez moi. Et je lui répondais pas le matin au téléphone, j'avais autre chose à foutre.
Oui.
Je voulais que je remonte ma boîte. Et il me dit, oui, mais vous me répondez pas le matin. Je dis, le matin, je suis en plein travail. Mais j'ai dit, mais si vous m'appelez chez moi, pendant ma pause, que je dors, vous croyez quoi? Vous croyez pas que je me lève pas tous les matins en regardant mon relevé bancaire, en sachant où j'en suis? Vous croyez quoi? Et vous allez faire quoi, là? Vous allez m'appeler? Mais si vous me dérangez pendant que je dors, c'est sûr que je vais jamais y arriver. Il m'a jamais rappelé et j'y suis arrivé. Ça, c'est pour la petite anecdote. Bah,
écoute, on lui dit bonjour. Il se reconnaîtra peut-être s'il écoute ça.
Là, c'est le petit rapport au temps, la distinction. Donc ça, donc d'amener quelque chose de nouveau, c'était une question d'organisation du temps. Et j'avais une résistance. Pour te dire, le rapport, j'ai toujours rêvé de faire de la course en solitaire. Parce que ce qui me passionnait, c'était ce rapport au sommeil, ce rapport à la gestion du temps, à la performance, mais à la performance humaine par rapport à son corps.
Ouais.
Donc là, je prends ces cours. Au bout d'un an, j'apprends à dessiner. Puis avec une méthode où on n'apprend pas académiquement, mais on apprend en essayant déjà de... Enfin, pour donner l'exemple type, on voit un dessin de Picasso. On va se dire, oh là, je peux pas le reprendre, un dessin au trait, jamais, c'est de Picasso, on peut le faire. Et en fait, faut débrancher ce truc-là qui nous dit qu'on peut pas faire, et puis de dire, ah, je dessine la bouche, je dessine le nez. Et en fait, on met le dessin à l'envers, et là, on dessine que d'un trait par rapport à l'autre.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, on s'occupe des proportions du trait, est-ce qu'il va en diagonale, est-ce qu'il est rond, est-ce que telle taille de trait par rapport à tel autre. Et à fin, on retourne et en fait, on a dessiné comme Picasso. On a recopié le dessin de Picasso. Ouais. Donc en fait, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on va parler. Donc on va parler des ombres et des lumières, on va parler des perspectives, mais avec une vision beaucoup plus, on va dire, apprendre à regarder. C'est surtout ça, avant de dessiner. Et donc je fais ce cours et en un an, j'apprends. La petite anecdote, c'est qu'on commence le premier cours avec un petit dessin de l'époque, puis à la fin de l'année, tu refais les mêmes dessins, mais tu as oublié parce que c'était les cours du début.
Bien sûr, ouais.
Donc, et ça, c'est quelque chose qui joue sur la créativité et je commence à avoir des élèves. Donc, on travaille sur l'idée, c'est de développer la créativité à travers le dessin, l'observation précise et l'observation du réel.
Tu fais ça à l'époque pour améliorer ta cuisine ou pas du tout? C'est vraiment quelque chose que tu as envie de travailler à côté. Enfin, c'est quoi qui t'amène là?
En fait, il y a une chose, si tu veux, que je commence à me rendre compte aujourd'hui, alors que je suis un grand mental souvent est très anxieux, mais en fait je me laisse porter par le vent.
D'accord.
C'est-à-dire que là il y a quelque chose qui se passe, j'y vais, c'est une belle rencontre, c'était vraiment c'est encore ce qui est vivant Eric bien sûr, mais on a moins de contact maintenant, mais c'est un très grand maître d'atelier pour ouvrir des portes. Et la deuxième année il me dit je fais un cours de calligraphie. Pourquoi pas. Et donc on fait un cours de calligraphie, sachant que j'écrivais très mal, parce que j'ai travaillé mon écriture depuis que j'ai arrêté le restaurant, j'ai pris le temps. Et là, il se passe quelque chose, il me présente le travail de Fabienne Verdier, qui est une peintre calligraphe qui est allée 10 ans en Chine, et je lis le livre qui s'appelle La Passagère du silence, où elle témoigne de ça, et là, je rentre dans un univers mais qui me parle, mais c'est des vibrations, quoi, et qui rejoint ma cuisine en même temps. C'est-à-dire de ne pas être... Si tu veux, à mon époque, un cuisinier, ça doit bien savoir cuire et bien savoir saler. Donc, dès toi, tu disais la rigueur et la maîtrise.
Oui.
Et là, on te parle de lâcher prise.
Uh-huh.
Mais en même temps, un lâcher prise, pour arriver à lâcher prise, il faut travailler beaucoup. C'est-à-dire, c'est pas... contrairement... Et Eric l'enseigne très bien, ça. Et, c'est-à-dire que c'est pas... le don n'existe pas. Enfin, le métier de Sylvie Robat, Betty Edwards s'explique bien qu'on apprend à dessiner comme on apprend à écrire.
Mm-hmm.
Donc, après, c'est des expressions différentes. Tu peux aller plus ou moins loin suivant qui t'es, mais le don n'existe pas. C'est juste un développement. Et là, maintenant, je m'intéresse beaucoup aux neurosciences sur la créativité. C'est vraiment comme tu peux développer ta mémoire, en fait. Tu développes ta créativité.
Voilà, c'est un travail.
Et puis dans ce livre, il parle, donc ça m'attire, je vois, c'est donc le seul bouquin que je donnais à mes apprentis pour te demander de la formation, c'était un livre d'art d'elle qui s'appelait Entre terre et ciel, où on voit juste des gestes, et c'est le seul bouquin de cuisine que je leur donnais, pour apprendre à voir le beau et puis utiliser, donc c'est des gestes qu'on travaille sur le geste dans la présentation des assiettes, et de mon côté je me dis, mais il y a cette rigueur, alors elle est allée... Donc, il faut imaginer une jeune femme française qui doit aller voir un vieux calligraphe en Chine où ils sont plutôt un peu planqués avec l'origine communiste, puisque c'est des savoirs très anciens. Et il faut qu'elle arrive à convaincre. Et en fait, le maître lui dit, elle insiste déjà, on arrive à le voir, lui dit, fais-moi des traits droits pendant un an. Et tous les jours, elle va faire ses traits, elle amène ses traits. Et au bout d'un an, il n'en revient pas, il lui dit, oui, tes traits commencent un peu à vivre, puis après, il y a tout l'accompagnement. Et moi, je me dis, mais comment je vais faire cette assaise, tu vois, avec le truc du restaurant? Et là, j'ai dû au fait d'avoir travaillé sur la créativité, mais je me dis, mais c'est pas dur. Enfin, c'est pas dur. J'ai l'idée de faire un petit geste avec du vinaigre balsamique réduit sur chaque assiette, sur chaque côté, sans que les gens savent, mais un geste différent. Et donc, avec cette assaise-là, donc je fais entre 100 et 150 gestes par jour, et avec, comme quoi, je dois être présent une demi-seconde quand je le fais. Je n'ai pas besoin pour longtemps, mais je dois être présent.
Ouais.
À tel point, on en revient sur la qualité que j'avais de relation avec mon équipe, où là, il n'y a aucune protection possible. C'est-à-dire que s'il y a 100 couverts, qu'on est à plein de bourre, que machin, et que je commence à poser mes assiettes, et que je fais mes gestes sans faire attention, j'emmène les assiettes à la plonge, je les mets à la plonge.
Ça repart à zéro.
Ça repart à zéro. Il faut qu'à chaque geste, je sois présent. Et je le regarde. Donc, j'en fais entre 100 et 150 par jour pendant 13 ans. Voilà. Et après, donc, il y a toute cette dimension-là. En même temps, je commence à travailler, j'évolue aussi toujours sur le vin, qui m'enveloppe. Et puis surtout, je commence à aussi développer une autre manière de créer des plats. C'est-à-dire qu'au début, donc, j'ai une formation chez Topeco qui est très analyse sensorielle, vue, nez, bouche, et puis avec une importance fondamentale sur le nez. Et puis tu fais des accords musulmans, ça sent la framboise. Tiens, je vais mettre de la framboise dans mon plat. Puis la réglisse va bien avec la framboise, je mets un peu de réglisse. Ou ça sent le curry, je mets un peu de curry. Et puis tout ça, je me rends compte qu'en travaillant sur la créa, parce que je continuais aussi mon enseignement avec Eric, qui a un troisième cours, un autre cours où là on travaille vraiment sur les process de créativité et sur de l'abstrait. Et je me rends compte que je commence à créer des plats par image. J'ai envie de manger. C'est-à-dire, je goûte un vin, j'ai envie de manger. Puis je me rends compte que puis ça s'appuie sur aussi après sur un intérêt aussi pour le fonctionnement du cerveau. Je me rends compte que si j'analyse pas le vin avant, si je le bois directement, j'ai des envies de plat qui sont vraiment claires. Donc je commence à me dire le nez, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir le nez, de sentir un vin et puis il a des odeurs déviantes et puis en fait il est super bon en bouche. Donc j'ai commencé à boire à boire le vin ainsi directement. Oui. Et là viennent des images de plat. Et c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser vraiment cette créativité en cuisine.
Donc, quand est-ce que tu prends cette décision radicale ? Parce que tu t'es formé, tu pratiques au quotidien dans ta cuisine, et un jour, voilà, reprends-toi.
Ça va aller.
Voilà. Voilà. Donc, comment, quel est le jour 1 de cette prise de décision où tu te dis... j'ai envie d'aller un peu plus loin dans cet aspect de la peinture.
En fait, ça se fait en parallèle.
D'accord.
C'est-à-dire que la peinture me permet une introspection qui reste, et la cuisine, c'est quelque chose qui sort et qui donne.
D'accord.
Donc ça se fait en parallèle. Et j'avance sur mon projet, et en fait, ça fait comme une sorte de carapace et une mue. Mm-hmm. C'est-à-dire, plus j'avance sur mon projet de la balance... plus je le maîtrise, plus j'en ai les éléments, et plus il y a de la place pour autre chose.
D'accord.
Et ça se fait de manière, on va dire, c'est le paradoxe, hein, mais je commençais à gagner de l'argent. Et je commençais, juste pour donner un ordre d'idée, les derniers, c'était ce que je disais avec Jean Rico qui m'a accompagné, avec les outils que j'avais de gestion, de prévision, je faisais des erreurs sur un budget, donc un budget prévisionnel de 1%. Voilà.
C'est pas mal.
Donc en fait, tous les éléments sont métier, là. C'est pour donner jusqu'où ça allait dans la maîtrise.
Oui.
Et donc, t'es arrivé au bout. Et je me souviens que jeune, on avait vu je me souviens pas, j'ai pas une mémoire des noms, mais un film japonais où le maître japonais disait faut suicider au sommet du bonheur. C'est assez dur,
mais oui,
c'est la pensée, c'est une pensée asiatique, c'est une pensée qui va très bien avec le Japon. Et ça m'est toujours resté, ça. C'était un truc que j'avais vu, donc ça va être en prépa avec ma fameuse prof de français dont je parlais tout à l'heure. Et ça m'est toujours resté. Et je
D'accord.
me suis toujours dit, quand j'arrive à quelque chose au bout, je suis au bout. Et en fait, après, comment j'ai compris, c'est qu'en fait, tu laisses la place, c'est-à-dire ta carapace, elle est finie,
oui.
Tu mues dedans, donc c'est la place pour quelque chose qui est en gestation. Et donc, après, c'est le timing se fait en fonction de différents éléments, quoi, en fait. Si tu veux, quand je m'étais installé, moi, j'étais clair, hein, j'avais dit 15 ans.
D'accord.
C'est-à-dire que 15 ans, ça correspondait aussi pour laisser de la place à ma femme après, les enfants seraient grands.
Enfin, oui,
voilà,
d'accord.
On s'était dit moite-moite d'un point de vue projet professionnel. Et puis, en 2012, j'ai eu une année très difficile. Et au début, je me suis dit, c'est le moment de vente, ça faisait 15 ans.
Oui.
Et ça allait pas. Et en fait, je travaille dessus, je réfléchis, j'écris, puis je peins aussi. C'est une peinture qui m'a permis de comprendre où j'en étais. Et je sens qu'il y a beaucoup d'énergie et il y a de l'amertume si je m'arrête parce que c'est une année difficile. Et par contre, c'est là où je prends des décisions radicales, où je ferme le dimanche. Je diminue mon équipe parce que j'ai des départs que je renouvelle pas. Et je me centre, je me dis là, j'avais une grosse équipe, là, je cuisine, quoi, en fait.
Excuse-moi, cette décision donc de fermer le dimanche, tu dis, c'est 2015? 2012.
2013. En fait.
D'accord. Okay.
Enfin, après l'année 2012.
Donc c'est très novateur, là encore, je veux dire.
J'en ai entendu, oui.
Oui, j'imagine que dans la profession, et des clients surtout, la décision n'a pas dû passer facilement.
En fait.
Voilà. Ouais.
Et puis tu veux pas travailler, et puis voilà, comment. Mais en fait, on fait 5% de plus de chiffre d'affaires en ayant l'équivalent de 4 de mémoire, 4 emplois à temps plein en moins.
Hein, oui.
L'année d'après, on fait plus 12, l'année d'après, on fait plus 15. Donc, pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai recentré mon travail. Je maintiens, je stabilise. J'avais des femmes seules, qui avaient des enfants. Je stabilise mon équipe. Les gens bossaient le samedi soir en restauration, c'est pas difficile parce que samedi c'est festif. Donc oui. On termine le soir sur un service festif.
Oui.
Souvent, ils se terminent tard après.
Oui.
Parce qu'il faut descendre.
Débriefer, voilà. Il faut débriefer, ouais, tout à fait.
Il faut descendre.
Ouais.
Même sans être, faut descendre. En fait,
ouais,
t'as l'énergie, donc tu bois un coup. Des fois, ça se finit à l'aube, mais il y a plus le service du dimanche. Et puis deux jours consécutifs, et j'ai plus de rotation, ni pour moi ni pour les autres. Et moi, ouais. Le dimanche, je suis avec ma famille.
D'accord.
Et donc, je retrouve une énergie. Et même si des fois il me manque du monde ou parce qu'on était en équipe plus serrée, même si c'est difficile, en fait, je sais que ça s'arrête. Par contre, je n'ai jamais bossé le lundi. C'est-à-dire, je suis allé, j'avais bien sûr mes papiers en tant que patron, je faisais
chef
mes
d'entreprise,
papiers,
chef oui, d'entreprise, bien sûr, ouais.
Mais je faisais ma compta à la fin. Et en fait, je me débrouillais pour travailler. Et je me débrouillais, mais je savais que j'avais mes deux jours. Donc après, d'accord. Ça changeait tout.
D'accord. Et alors, comment tu gères le risque de lâcher ce métier que tu maîtrises, cette affaire qui fonctionne, qui te fait vivre, et où tu es reconnu pour l'inconfort et l'inconnu, quoi. Parce que j'imagine que de peindre, c'est un plaisir. Maintenant, derrière, tu l'as dit, tu as une épouse, tu as des enfants qui sont jeunes à l'époque. Donc, y a quand même un choix.
Ça me fait plaisir, tiens, quelqu'un qui ne me dit pas que je suis en retraite et que c'est bien. Qu'est-ce que j'en ai entendu ?
Pourquoi ?
Parce que, en fait, comment tu gères ? C'est t'es mené. Moi, j'avais, de toute façon, si tu veux, j'arrivais à l'âge où physiquement, comme un sportif de haut niveau, c'est soit tu passes de l'autre côté, t'es un peu coach.
Rappelle-nous,
48 ans.
48 ans, d'accord. Okay.
Donc, t'es à l'âge où tu sais que physiquement, puis comme je faisais mon métier complètement investi, donc ouais, les services,
fond,
puis
ouais.
Je t'ai dit, et puis j'ai pas de, les cuissons, je les fais, quoi. C'est pas un four qui me les fait. Et donc, cuisson, poêle, le feu, la maîtrise du feu. Donc, pas, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent très, très bien. Hein. C'est pas ça que je veux dire. C'est que dans ma manière d'être, pour moi, ce qui m'intéresse dans la cuisine, c'est la maîtrise du feu. Donc,
oui.
T'es en contact, donc il fait chaud dans la cuisine, t'es avec de la fonte, c'est lourd. Donc, physiquement, tu sais que 48 ans, je vais pas tenir, puis je tiens un rythme élevé. Il y a un côté festif dans le métier, il y a tout ça. J'ai pris 15 kilos. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui fait que la santé, tu commences à te dire, même si j'avais pas de problème, tout ça, tu sais que tu vas devoir passer, comme beaucoup de chefs, à un moment donné, tu passes un peu plus vers un statut chef où tu diriges ton équipe, mais t'es moins dans le faire. Donc, pour moi, ce qui est complexe d'accepter ça.
D'accord.
D'un point de vue familial, comme je t'avais dit, on s'était dit 15 ans, là, ça faisait 18, ça allait faire 18. Et donc, je me dis, en fait, je vais. Donc, tous ces éléments-là, en fait, j'ai pas envie de passer de ce côté-là, de ce côté chef, même si l'entreprise
oui,
tourne.
Ouais,
j'aurais
ouais,
pu,
okay.
comme tu dis, tu vois, commercialement s'installer. J'aurais pu tirer les profits.
Profiter d'une image et.
Et il y a cette force qui me pousse à exprimer. Alors, la peinture, c'est pas un. Dans le sens où plaisir, c'est complexe hein, de dire. Pourquoi je dis dire c'est pas un plaisir ? Parce que, en fait, même si je m'arrête, le plus simple, c'est pas de devenir peintre. C'est d'être installé, j'ai un capital, et je vais travailler dans un truc, la vie me passionnait, j'ai fait du boulot, je peux trouver quelque chose, si tu veux, ou de la transmission, j'en sais
oui.
rien, je
peux oui.
travailler. Et en fait, il y a quelque chose qui te pousse, que tu as encore quelque chose à dire, quelque chose à dire, et c'est cet élan-là. Et j'aime beaucoup le... tu sais, il y a... Enfin, ça va faire un peu... des fois, c'est le côté un peu prétentieux, mais il faut... Platon, il dit, il y a le philosophe, tu vas voir la lumière, quand tu es dans la grotte, tout le monde voit le reflet du feu et ne voit que l'ombre. Et puis le philosophe, le principe, c'est qu'il va dehors, donc il comprend qu'il y a la lumière, puis donc c'est juste le reflet du feu. Mais le truc, c'est de revenir dedans. Sinon, t'es pas philosophe, entre guillemets. Et le truc, c'est que il y a des choses comme ça que tu comprends, que tu sens, que tu perçois. Et donc, le fait d'arrêter, ça me permet de percevoir encore plus de choses. Et en fait, c'est de re-rentrer dedans et de dire comment est-ce que je partage. La cuisine, je suis arrivé au bout de ce que je voulais faire. Et surtout, c'est de l'enranger. D'ailleurs, quand les gens, j'ai arrêté, t'avais vraiment presque des reproches. Les gens s'étaient appropriés le lieu parce que c'était un lieu où
j'imagine comment... Alors, on parlait de ton épouse, de tes enfants, mais c'est tes parents, c'est tes clients, c'est tes pères. C'est quoi les réactions que tu as eues à l'époque des uns et des autres, tu as des anecdotes, tu as des choses qui t'ont choqué, T'as des choses qui, à contrario, t'ont plu. T'as peut-être des gens qui t'ont témoigné des choses sympas et d'autres beaucoup moins sympas.
Il y a un truc qu'il faut savoir dans notre, c'est que moi, j'étais animé par, c'est-à-dire jusqu'à, j'ai eu le syndrome de l'imposteur, parce que j'ai passé mon CAP à 3 ans, à 23 ans. Et c'est la dernière année où j'ai compris que je savais cuisiner. C'est-à-dire que j'ai passé 16 ans dans le doute. Tous les jours, dans un doute total. Ce qui a fait que, malgré Jean-Paul Jeunet, c'était quelqu'un qui m'a vraiment accompagné, qui m'a vraiment donné des repères. Malgré ça, il a été important parce qu'il m'avait dit... En fait, ça, c'est une petite anecdote, mais qui est importante dans mon parcours. En fait, dans le petit restaurant où je travaillais avant de faire la formation, il y avait les France Bleu qui venaient manger. Et en fait, il y avait une émission où Jean-Paul était invité, et puis elle me dit, on va venir avec Jean-Paul. Et moi, je viens tout comme ça, puis je fais à manger, puis je dis rien, il vient me voir en cuisine, il me dit bravo, j'ai vraiment super bien mangé. Et puis, il a vu que j'étais avec une stagiaire, tout ça, bravo, tout ça. Je dis, il est super poli, super gentil, tout ça, puis je repars. Et après, je crée mon restaurant Arbois, et puis à une époque, il y avait un prix, je vais le voir, ça se fait pas, tout ça, mais il y a un contact. Et un jour, on va manger avec Séverine chez Jean-Paul, donc on y allait. Et c'était le début, et il me dit, donc on mange, et il me dit, écoute, on est resté avec Nadine parce que tu venais, normalement, on ne devait pas être là. Et il me rappelle ce qu'il avait mangé ce jour-là.
Et toi?
Ce jour-là, c'était une époque où j'étais en doute, parce que quand j'étais en doute, j'allais manger chez Jean-Paul, mais une époque où j'avais des BTS, à l'époque, je prenais des BTS, que j'étais pas sûr de moi, des BTS qui sortaient de Poligny, et ils m'en renvoyaient plein la tronche dans ma manière de cuisiner, tu vois, c'était vraiment en conflit, c'était au début,
bien
ça.
Bien sûr.
Après, le lendemain, c'était terminé, plus personne n'avait plus rien à dire. Mais après, quand même, j'ai toujours eu cette chose-là, et de faire des choses différentes. Et l'autre anecdote importante, c'est un ami proche qui est Mehdi Besrour, donc un entrepreneur d'Arbois qui est assez incroyable, qui est venu avec une 4L et un pot de peinture et qui maintenant a des très belles entreprises, et qui m'a aidé dès le départ. Et je me suis dit, c'est donc les premières personnes avec qui c'est bien sûr ma femme avec qui on a discuté, mon associé de l'époque, Aurélie, et puis mes enfants, les premiers à avoir indiqué, qui n'ont pas du tout participé à la discussion, mais à qui on a indiqué. Pardon. Et donc la première décision était vraiment prise avec ma femme, et puis après donc avec Aurélie, et puis donc on annonce. Mais avant d'annoncer à l'équipe, je suis allé voir ce Mehdi qui était vraiment un soutien fort. Et je te promets, c'était impressionnant. J'arrivais pas à le joindre, quoi. Il voulait pas. Et je le revois encore devant son magasin MB+, là, sortir de sa bagnole. Je vais le choper. Il me dit, je sais pourquoi tu viens, je vais pas t'entendre. Et c'était à la fois touchant,
bien sûr,
d'une force. Et après, il y a eu plein de gens, des réactions, des gens, Pascal Clairet, mon ami de vigneron, et qui m'a dit, qu'est-ce que tu nous fais, mais dans un sens pas. Alors que je m'attendais, parce que les vignerons, j'ai eu aussi des gens qui m'ont un peu, quand même. Qu'est-ce que tu te permets de faire ça, quoi?
Ouais,
et c'était avec lui, c'est parce que le projet est né dans sa cave, en fait. Pascal, il était mon prof de dégus, et le projet était né dans sa cave. L'idée, il m'avait dit, il faut pas que tu partes sans faire quelque chose. Et donc, c'était toutes les idées sont venues beaucoup. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu nous fais? Je me souviens avec Evelyne, ils étaient les deux. Mais avec un grand sourire, quoi. Et ça m'avait beaucoup touché, parce que lui, s'il y avait un gars qui était en référence au projet du départ, c'était lui, un vigneron, donc proche de la terre, qui était très dur en affaire, avec Pascal, Pascal et Evelyne, ça n'a pas toujours été simple. Dans nos rapports, c'était des actionnaires qui étaient investis.
D'accord.
Et toujours cordial, mais
bien sûr, mais
toujours
oui.
Sympathique,
mais
avec des
on était dans les affaires.
Et là, je vois encore sa tête. Et ça, c'était pareil. C'était très, 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 très beau moment, ça.
Pascal, une personnalité, parce que c'est aussi lui, quelqu'un qui s'est pris un peu, un des premiers à s'être inscrit en rupture avec le Savagnin, qui n'était plus du Savagnin du Jura. Enfin, je veux dire. Moi, je me souviens avoir dégusté ça chez lui. Et alors, avec ce conditionnement qu'on avait tous, jurassien, de dire, mais qu'est-ce que. Honte à lui! Et puis aujourd'hui, l'histoire est...
Ah bah, elle est dingue.
Voilà, elle s'est écrite différemment, et je crois que le Jura est devenu ce qu'il est devenu aussi un peu grâce à ça.
Bien sûr.
Voilà.
Ah bah là, par rapport, c'est sûr que là, on est dans quelque chose de sur les vins, on n'a pas encore abordé, mais les changements sont importants, sont très très importants. Et souvent, on limite le vin du Jura au vin de voile, alors que ce qui fait la spécificité du Jura, c'est ses terrains, ses sols.
Alors... On va être obligé de parler de vin parce que on va basculer sur ta peinture et je crois qu'il y a un rapport assez intime entre ta peinture. T'as parlé de calligraphie, t'as parlé de Japon, tu parles de vin et de terroir. Je crois que il y a beaucoup de choses là. Alors bon, voilà, faut que tu nous expliques un petit peu quelle histoire tu cherches à raconter et qu'est-ce que tu cherches à établir avec la peinture.
En fait, ce qui est important, tu vois, tu me demandais dans la transition, c'est que j'ai commencé à travailler, à exprimer le vin en faisant des essais comme ça avec de l'encre ou de la peinture acrylique. Quand j'ai vu que je faisais des plats par image, j'ai commencé à exprimer le vin sur des peintures, en fait, en faisant des petits mélanges, en remplaçant l'eau de l'acrylique par le vin. Enfin, voilà. Et là, j'avais déjà quelque chose qui se passait. Et surtout, dans le cadre de la cuisine, je me suis rendu compte que, en fait, d'un point de vue... pour moi, on dit que c'est pas de l'art, la cuisine. Je vais être un peu violent, c'est de l'artisanat d'art. Je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, tu rentres dans un cadre. Si tu as envie, un jour, que tu sens que ce vin-là, que cet espace-là, tu veux aller sur des choses très amères, où moi, j'ai travaillé sur la non-place du sel, tout ça.
Oui, tu le
les gens, tu embarques, j'ai failli couler ma boîte avec ces idées-là. Tu peux pas embarquer les gens trop loin. Faut que tu restes dans quelque chose qui reste de l'ordre de la clientèle, de l'acceptable, même si tu vas dans les limites de l'acceptable.
Oui, oui.
Mais tu peux pas aller au bout, toi, de tes tripes et de ton ressenti. T'es obligé. Et même si tu mets toute ton énergie, mais tu vas pas dans une expression artistique. Tu vas de métier d'art. C'est magnifique. C'est un moment magique. C'est comme un truc. Mais tu restes dans un cadre où tu as une évaluation, entre guillemets.
Dans une norme.
Enfin, dans une norme.
Ouais.
Et ça, donc, je sentais les limites de ça. Et donc, mais j'avais déjà commencé le rapport, le vin, tout ça. Et petit à petit, donc j'arrête, je vends le restaurant. Et donc, je commence à travailler sur cette calligraphie, ce lien. Donc, dans le même temps, je vais travailler dans la vigne. C'est-à-dire que je venais d'un statut social notable, et, étant d'origine ouvrière. Et Stéphane Tisson m'accueille et me propose. Donc, je lui demande si je peux travailler à temps partiel dans la vigne. Quoi.
D'accord.
Pour retrouver à la base avec des gens, tout ça.
Alors, le travail de la vigne.
Hein? Voilà, tout le travail de la vigne. Alors, quand tu vas sur Arbois et que tu dis que tu étais...
Le chef de la balance,
et
ouais.
Et que tu bosses aujourd'hui, que tu es ouvrier viticole, les gens te regardent un peu comme ça, mais j'ai bien aimé ce moment-là. Et puis, il y en a d'autres qui disent qu'ils voient la peinture et qui me disent tout de suite, t'es en retraite, en fait. C'est ton hobby, quoi. Et puis, je commence à travailler sur l'expression du vin, à travers des gestes. Alors, à l'époque, j'utilise le vin, je le trempe dans des papiers, je remplace le thé, et que ce soit en Chine ou les pays musulmans, la calligraphie arabe, en fait, ils mettaient les papiers dans le thé pour avoir des univers. Donc, à cette époque-là, je mets juste un univers où le vin fait partie des papiers.
Oh.
Et je bois le vin toujours au moment où je vais faire mon geste calligraphique et je transforme
une émotion,
énergie du vin, comme ça. Mmh. Et donc, ça, on avance comme ça. Et il se passe en 2017-18, par là, je rencontre une céramiste qui s'appelle Françoise Chollet. Et à Château-Chalon, à l'époque, il y a un événement qui s'appelle L'Art se dévoile. Et donc, je suis très proche du domaine Berthet-Bondet aussi, je les connais bien. Et donc, j'avais déjà fait une fois L'Art se dévoile au domaine. Et puis, c'est tous les deux ans, on dit on va le refaire. Et en fait, je rencontre une céramiste avec qui on discute, qui est passionnée de cuisine aussi et de vin. Et puis, elle est à l'atelier, je l'avais invitée pour une exposition. Et je lui dis, elle me raconte qu'en fait, elle va chercher ses terres. Enfin, ses terres, et donc c'est une céramiste qui fabrique ses terres, elle n'achète pas ses terres.
D'accord.
Et je lui dis, mais je suis sûr que le vin est meilleur dans de la terre que dans du verre. Elle me dit non, mais n'importe quoi. Je lui dis, on essaye. J'essaye dans son verre. Elle dit, putain, c'est pas du tout la même expression, c'est super intéressant. Et je lui dis, écoute, l'année prochaine, je vais faire au Berthet-Bondet. Et tu me fais un verre en terre de Château-Chalon. Et puis, donc on va au domaine, on va récolter la terre. Et puis, il me dit, prends de la terre dans ton atelier. Je dis, pourquoi? Il me dit, prends de la terre dans ton atelier. Et là, j'arrive dans l'atelier, je commence à mélanger la terre et le vin, logique.
D'accord,
tu réunis le vin avec sa terre, si tu veux. Et, Et il se passe des choses, puis je cherche un peu, et après je commence à me renseigner, puis je fais une formation sur les peintures naturelles. Et là, je vois déjà le lien, c'est-à-dire ramener le vin à sa terre.
D'accord.
Et ça part de là. Ouais. Et après, donc, je vais commencer à créer une matière, toute une phase de recherche, comme dans toute chose. Et après, j'arrive à un moment où je me forme, et donc, dans l'idée, c'est de ne porter aucun intrant chimique. Donc, j'avais fait une formation sur les peintures naturelles pour un liant à l'œuf, liant à la gomme arabique, tout ça. Et donc, j'ai créé cette matière. Et en fait, je travaille sur une exposition, au musée de la vigne et du vin. Et donc, il y a vraiment cet aspect. Je me dis, mais il faut exprimer la terre. Et je découvre aussi le travail de Michel Campy, son livre de géologie sur les terroirs du Jura. Il y a aussi Stéphane Tissot qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est quelqu'un de proche, qui va me donner aussi plein de clés.
Oui.
De clés, de compréhension. Mais je fais ma sauce. C'est-à-dire, je fais ma sauce. C'est-à-dire, je commence à mélanger et puis goûter différemment, surtout ça. C'est-à-dire, je goûte le vin et je suis traversé par les sensations. Et pour moi, le vin, il raconte l'histoire de la terre. C'est-à-dire qu'il met cette énergie. Et là, tu comprends que dans le Jura, on est en lien avec des terres qui ont 250 millions d'années. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Et c'est de comment on peut transcrire quelque chose qui n'est pas visible, en fait, qui s'appelle l'énergie.
Écoute, tu as eu une vie parfaitement rythmée par l'organisation de ta cuisine. J'imagine que tes journées étaient millimétrées. Bon, tu as dit tout à l'heure que tu n'étais pas un gros dormeur. Maintenant, comment tu travailles ton organisation, tes routines, tes plages horaires, enfin, tes sommeils, tes pratiques sportives, enfin, qu'est-ce qui a changé dans ta vie et comment tu vas chercher tes inspirations?
Alors, qu'est-ce qui a changé? Déjà, c'est vrai que d'avoir des espaces vides, c'est compliqué. En fait, et surtout, ce qui est compliqué, c'est plus d'avoir d'espace réel. C'est-à-dire qu'avant, je te disais, je travaillais beaucoup, j'avais la maison et le reste. Là, j'ai un téléphone portable, ce que j'avais pas avant.
Oui.
Tu vois, parce que c'était pas dur, il fallait me joindre, c'était au restaurant. Et ceux qui, les persos, ils me joignaient chez moi. Donc voilà. Donc il y avait vraiment. Donc ça a changé. Donc il y a une espèce de truc où quelque chose est en route, on va dire, de cerveau qui est constamment en ébullition, que tu vas pas toujours gérer. T'as aussi la découverte d'un métier. La création dans le métier de peintre, c'est 25%. C'est des dossiers à faire.
Un aspect entrepreneurial. On va en parler. C'est assez souvent antinomique. Je veux dire, on a une image de l'artiste qui voit l'entreprise sous un prisme un peu négatif, quoi. Alors que c'est une nécessité. Enfin, je veux dire,
c'est passionnant. Moi, aujourd'hui, ce que je trouve passionnant, c'est ça, c'est d'arriver à. Alors, c'est compliqué parce que je me retrouve auto-entrepreneur, entre guillemets. Si tu veux, tout seul et avec tout à faire. Et puis donc, il a fallu se former aussi sur les codes. T'apprends aussi. Et puis, t'es jeune peintre à 40, 50 ans. C'est compliqué en France. Hein. Ça découvrir un milieu que tu connais pas. J'ai sous-estimé quand j'ai rentré dans ce milieu-là, quand j'avais préparé, c'est le truc du paradoxe qu'on dit toujours, faut pas avoir de sous. Donc, j'avais du capital d'avance. Maintenant, ce qui est plus le cas parce qu'on a, il est passé avec le temps. Mais en fait, comme j'avais pas de sous avec la balance, j'avais fait une étude de marché, mais d'une précision incroyable. Là, j'y suis allé comme ça, quoi. Alors, en me laissant porter. Et puis, c'est aussi l'âge où les enfants partent de la maison. Donc, j'avais du temps. J'ai pu investir du temps avec eux. Oui. Donc, il y a eu plein de choses comme ça qui se sont passées. Et aujourd'hui, bah, en fait, la chose qui est importante, c'est que j'ai une pratique du tai chi tous les jours. Ça, c'est important. D'aller se promener. J'y arrive pas toujours, mais d'être dehors régulièrement. Et puis, d'essayer de conserver, ça, c'est ce que j'avais sous-estimé. Moi, j'étais content de retrouver mes week-ends. Et en fait, d'essayer de conserver, il y a quand même, je suis pris à peu près un week-end sur deux, vu le travail d'artiste entre les expos, les trucs. Oui. Donc, d'essayer de conserver ces espaces-temps où il se passe rien, où il se passe, t'es dans ta vie personnelle.
D'accord.
Parce que par rapport à avant, j'ai beaucoup plus de mal à protéger mes espaces-temps de vie personnelle. C'est-à-dire, ils sont beaucoup plus, c'est un investissement total, en fait.
Ouais.
Qui est beaucoup plus, alors c'est paradoxal, hein, quand je dis ça aux gens, ils y croient pas, c'est moins reposant, c'est moins engageant physiquement, ça, il n'y a pas photo.
D'accord.
Mais c'est moins reposant, c'est clair. Il y a une chance d'éveil, des fois tu te réveilles, t'as une idée dans la nuit sur un dossier que t'es en train de faire qui est important, tu te lèves, quoi, tu vois.
Voilà, donc t'es en éveil 365 jours de l'année.
Voilà, j'essaye de protéger des temps, mais très souvent, ouais. Voilà. Et après, sur le principe, c'est de, quand je vais travailler sur quelque chose, c'est d'emmagasiner de l'information, en dégustant, en allant sur le terrain, goûter. Et puis, à un moment donné, c'est repousser au maximum l'envie de peindre pour qu'elle soit la plus forte possible, quoi, en fait.
D'accord, d'accord. Mais comment tu sais aujourd'hui que tu as passé une bonne journée ? Alors, je parle professionnellement, hein, je veux dire, autant le restaurant, c'est assez simple, la salle était pleine, enfin, un bon service. Comment toi, aujourd'hui, tu arrives à te dire « je suis dans une bonne passe, c'est plus compliqué ?» Enfin, c'est...
Déjà, j'essaye de ne pas trop être dans le... Ça, c'est très chinois, de pas être dans le bien, pas bien, si tu veux. C'est... Mais j'aime... Enfin, je fais exprès juste pour dire, parce que bonne journée, je vois ce que tu veux dire, c'est... mais c'est pour juste dire aux plus à ceux qui partagent ce moment avec nous. Pour moi, bonne journée, bonne pas dans le sens bien ou mal.
Oui.
Une belle journée belle dans le journée. Sens où tu sens ton énergie, tu t'es rechargé en énergie. Comment je les plus belles, c'est quand je peins. Ça, il n'y a pas photo. J'exprime. Alors, j'avais toujours jusqu'à la limite de peindre. Là, l'atelier est en dormance. Là, ça commence sérieusement à me démanger. Puis, je commence à me poser la question pourquoi je fais ça. C'est le début d'année, t'as tes dossiers, tes machins, des trucs. Tu fais un peu le point, justement, de l'année d'avant, tes bilans, où t'en es financièrement. Donc c'est un peu le truc. Et donc tu te dis, pourquoi je fais ça ? Puis après, tu commences à peindre, tu as des retours sur ce que tu as peint, puis là, tu sais pourquoi, en fait. Tu sais pourquoi tu le fais. Donc ça, c'est vraiment ça. Et après, les belles journées, c'est quand... parce que les Chinois disent que la peinture appartient à celui qui regarde, et les beaux moments, c'est quand les gens te racontent des choses que tu n'as pas vues, quoi. Enfin, te racontent des choses avec ta peinture, te l'achètent, bien sûr, si ça te fait vivre, mais pas seulement, quand il se passe quelque chose, en fait. Ça, c'est... C'est magique. Et puis après, quand il se passe quelque chose où t'arrives à ce que d'être juste dans l'instant présent, quoi. Mmh. Ça, c'est vraiment la chose. Mais je crois que pour tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on nous en, je trouve qu'on nous vole beaucoup aujourd'hui, que le monde aujourd'hui nous vole.
C'est vraiment hyper inspirant de nous partager ça avec cette franchise. Alors, tu le disais à l'instant, bon, il y a une dimension, malgré tout, entrepreneuriale à ton activité artistique. Et je t'ai dit, on n'imagine pas toujours, hein, mais tu peux nous parler de ton modèle économique, de savoir un petit peu comment ça fonctionne, comment tu exposes, tu as un agent, enfin voilà, dis-nous un petit peu.
Bah, le rêve que je n'ai pas, le truc c'est en fait, ce serait d'avoir de travailler qu'une galerie qui fait le boulot de vente et tu t'occupes de ton travail. Il y en a un sur 10 000. Hein.
Ouais.
Et puis investir sur un gars qui a 50 ans... voilà, si tu veux aussi, c'est après mon modèle économique, il est basé sur une, ça c'est sur une partie beaucoup, il a été basé beaucoup là sur mon capital que j'ai mangé, pour être clair. Il est basé sur des ventes par rapport au où je suis dans le Jura qui sont élevées, c'est-à-dire qui sont à peu près 50% de mon chiffre d'affaires. Je le sais parce que quand j'ai fait mes formations sur Paris, ils me disaient donc je vends un peu, on est entre entrepreneurs, donc je vends entre 15 et 20 000 euros de tableau par an, ce qui est pas du tout assez pour vivre bien sûr, mais ce qui est énorme pour être dans le Jura.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Ce que m'ont dit, ce que moi j'ai pas le retour. Donc sachant que mes gammes sont, ça va de 200 à 1500 en gros. Et donc ça c'est la première partie. L'autre modèle où c'est le plus dur, c'est l'art marchand. C'est un peu, là, entre guillemets, ce qui me passionne aussi, l'art savant, c'est-à-dire de faire des expos avec, comme j'ai fait au Musée de la Vigne et du Vin, pardon, à Arbois. Le seul souci, là, ça aurait pu déclencher d'autres choses, parce que de faire très vite une expo qui tienne la route, sauf que je l'ai faite pendant le Covid. Alors, la magie des deux mairies, des deux mairies, c'est que la première l'a programmée, la deuxième l'a maintenue. Mais il n'y a pas eu, si tu veux, au vernissage, oui. J'ai eu personne. Il n'y a pas eu la création de réseau pour montrer ce que j'étais capable de faire.
Ouais.
Et à tel point que Valérie Depierre, la maire d'Arbois, elle a vu l'expo un peu tard avec le Covid. Et elle m'a dit, quand elle l'a vu, on était juste avant de la démonter, elle m'a dit, mais il aurait fallu raisonner une expo permanente pour te dire le truc. Et là, tu es dans une sorte de
frustration.
Tu ne te rends pas compte sur l'instant.
Bien sûr.
Mais en fait, tu dis, et en fait, donc il a fallu réenclencher tout ça. Après, il y a eu la période Covid où tout était calme. Tout était arrêté.
Oui, j'imagine que la cuisine n'était pas simple à cette époque, mais je pense que l'art était encore tout aussi difficile, quoi.
Voilà, c'était difficile. Après, et en fait, voilà, tout, donc il a fallu relancer tout ça. Et après, donc c'est vraiment ce côté-là. Et là, il y a quelque chose d'important qui est arrivé l'année dernière, c'est pour la DRAC, donc avec Madame Corinne Gambi, t'as des aides individuelles à la création. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai travaillé, si tu veux, tout. Quand tu dans l'art, t'as un travail de recherche qui est important. Que ce soit le médium que tu utilises, que ce soit tes recherches, tout ça. Après, tu peux rester dans ce que tu fais tout le temps. Il y en a qui font des paysages très beaux, qui vont les faire 50 fois, 10 ans, 20 ans.
D'accord.
Puis ça marche comme ça, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'aller toujours chercher et d'avancer, parce que j'ai d'autres choses qui arrivent tout le temps. Et là, par exemple, sur le vin, tout mon travail sur le vin qui fait aujourd'hui, la recherche, elle a été financée au départ, ma recherche profonde sur le vin par mon restaurant. Puisque les contacts que j'ai pu avoir,
ouais.
Formation. Ma recherche peinture et vin, qui est là, par le capital.
D'accord.
Là, je vais travailler sur l'eau, parce que ça me passionne aussi, tout en continuant mon travail sur le vin.
D'accord.
Mais j'ai d'autres projets sur l'eau, l'énergie de l'eau, donc faut que je trouve. Et donc là, on a la chance en France d'avoir, faudrait que ça continue, des systèmes où tu peux être aidé en tant qu'artiste pour des périodes de recherche. Mais vraiment de la recherche, ce qui s'appelle. Mais donc, faut faire des dossiers, faut qu'ils soient validés. Faut que tu trouves pour faire des résidences, des choses comme ça.
D'accord.
Et donc ça, quand tu viens, que t'as pas de diplôme, c'est toujours la même chose en France, même
bien
en art,
sûr.
C'est compliqué.
Oui.
Et en plus, à mon âge. Mais cette année, j'étais soutenu, c'est le premier truc, l'aide individuelle à la création, sur mon travail autour de l'eau, l'énergie de l'eau, comme je travaille sur l'énergie de la terre. Et donc ça, c'est important. Donc ça, c'est une partie de mon modèle économique. Et ce que je suis en train de développer, c'est deux choses importantes, qui sont les conférences dégustation, ce volet, comme j'ai une manière particulière de dégustation, où là, je fais des conférences qui me sont achetées, et où j'emmène les gens à...
Quand tu dis que tes conférences sont achetées, une entreprise...
Oui, une entreprise, ouais, une entreprise, un salon, des vins, une institution... Comme la
un événement particulier, on peut... Ouais,
voilà,
particulier, on peut... D'accord.
Okay. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant un temps donné, où je suis tout à fait capable d'adapter en fonction du public, et c'est d'être amené aux gens à amener cette dégustation sensible. C'est-à-dire, j'ai beaucoup... Donc, ça s'appuie... C'est important que je dise aussi, le temps que m'a libéré... ça, j'ai oublié de le dire, tu vois. Le temps que m'a libéré le fait de ne plus avoir le restaurant. Donc, moi, j'ai des origines scientifiques. Donc, aujourd'hui, je me réappuie sur des choses... voilà, donc mon fils aîné qui m'a un peu secoué quand j'étais dans le restaurant, je faisais très vite des biais cognitifs qui m'arrangeaient parce que j'ai pas le temps de chercher. Maintenant, j'ai le temps. Donc, j'ai eu des discussions avec lui sur des sujets où... j'ai tout de suite remis en place cette rigueur. J'ai rencontré aussi un monsieur qui s'appelle Daniel Rechvag, qui travaillait le PCC Louis Pasteur avec Sylvie Morel, et qui m'a fait rencontrer des scientifiques, et donc j'ai repris toutes ces choses-là. Dont Gabriel Lepouzet, qui travaille à l'Institut Pasteur, qui est un neuroscientifique sur la dégustation. Donc c'est passionnant, parce qu'en fait, moi je travaille comme ça, d'une manière, et en fait, il vient à une de mes conférences, puis il dit un truc très... Donc, on avait déjà échangé un peu une fois en visioconférence grâce à Daniel Rechvag. Donc, c'est vraiment la pointure de la recherche à ce niveau-là, la dégustation. Et il m'explique, lui, il trouve que... Il explique déjà que dans le nez, pour capter, là, il y a une variation de 1 à 1000 quand tu captes, pour capter une molécule. Donc, quand on dit qu'un terroir a le nez, faudrait un... c'est possible, hein, t'as le nez de telle chose... Si tu veux, il faudrait faire des milliers pour avoir un random qui soit à peu près juste statistique.
D'accord.
Donc, quand tu fais juste ça à 25, c'est impossible. La bouche, tu es juste sur 0 à 100 de variation.
Oui.
Donc, déjà, la bouche, c'est quelque chose de plus... Et après, j'ai trouvé très juste quand il m'a dit, mais tu fais des dégustations impressionnistes. L'impressionnisme, c'est capter les choses pas visibles. En fait, ça s'intéressait aux choses... Et sur le vin, en fait, il dit, bah écoute, quand tu vas voir un tableau de Van Gogh, tu commences pas à dire, tiens, c'est du jaune, c'est du bleu, c'est du vert, quel jaune il est utilisé. Tu regardes le tableau, puis tu dis, tiens, c'est un Van Gogh. Et donc, l'idée, c'est pendant ces temps-là de dégustation, ces conférences, j'amène les gens à goûter le vin par rapport à la sensation corporelle, par rapport à un truc. Et bien sûr, il y a aussi des tableaux, de faire le lien avec le tableau. Et on commence souvent, ça dépend du public, mais très souvent par une analyse sensorielle, pour expliquer comment ça marche. Et j'appuie aussi par ces connaissances maintenant que j'ai aussi, pour donner un exemple, le nez. Moi, j'utilisais le nez quand j'achetais des vins, parce que le nez, c'est un avertisseur. Donc, dans notre histoire d'animal, le nez, l'odorat, c'est souvent les dangers. Donc, si tu commences à sentir un vin, tu vas tout de suite lever les dangers. C'est-à-dire, ah, il y a une petite déviance en volatile. Oh, il y a une petite déviance de ça. Donc, quand tu vas goûter le vin, même si la volatile n'est pas gênante, tu as déjà mis...
Là, dans le cerveau.
Dans le cerveau, tu as déjà mis. Ouais. Et donc, quand tu achètes un vin, quand tu dois faire des achats, quand tu dois vinifier, parce que je fais un petit peu de vin aussi, le nez est très, très important. Parce qu'il va te donner vraiment des informations que ne donnera pas la bouche. Il va donner la bouche, mais ton vin, il est en train de vivre. Mais par contre, quand tu le goûtes, si tu commences si tu commences à analyser ton vin avant de le boire, en fait, tu perds plein de choses. Ce que je te dis, c'est vraiment le rapport au tableau.
Oui,
Donc, tu le goûtes, tu le mets en bouche, tu vois ce qui devient.
Il se passe ce qui se passe.
Et c'était venu tellement à un point que quand j'allais chez le vigneron, parce qu'aujourd'hui, maintenant, en plus, je suis assez content d'avoir ce contact-là, parce que je peux l'appuyer scientifiquement.
Sûr.
Et même si je suis au bruit, il faut encore que je travaille pour valider des choses, mais c'est le retour que j'ai eu sur ma méthode de dégustation. Mais au début, j'allais chez les vignerons, quand je voulais faire des accords mes vins, je faisais semblant. C'est-à-dire que si t'arrives, tu mets le vin directement en bouche, ils disent c'est pas dégusté, quoi. Et donc, je faisais semblant, c'est-à-dire que je les faisais parler ou je faisais parler mes collègues, je me débrouillais, ça, j'avais un peu de notion d'animation, petite débrouille de communication, c'est joli, mais en fait, je fermais tout. Dans ma tête, je fermais tout, si je voulais découvrir le vin,
par la
bouche, tout de suite, d'accord. Et surtout des vignerons que tu connais pas.
Oui.
C'est-à-dire des choses, il faut tout de suite avoir des sensations et non pas... Et j'aime bien ce parallèle avec le livre... Si tu veux, un vigneron, il accompagne une matière qui a capté l'énergie de la terre. L'énergie, pas au sens ésotérique, au sens chinois. C'est-à-dire, ils ont 2000 ans de travail sur ce qu'est l'énergie, hein. C'est pas de même 3 à 4000 ans d'histoire entre la matière, l'énergie, des choses qu'on est en train de découvrir en quantique. Donc, c'est pas quelque chose de, on va dire, c'est pas les petites, c'est important de le dire. Donc, il emmène cette énergie. Il la capte, et le vigneron, par un acte sensible, donc de vinification, d'accompagnement du vivant, il intervient plus ou moins suivant qui il est, suivant s'il veut avoir un résultat fini ou pas. Enfin, déjà, avant de savoir ce qui va se passer, il maîtrise le vivant, s'il veut laisser un peu plus d'expression, enfin, chacun.
Voilà. Ouais.
Et après, il le met dans une bouteille. Ça, c'est la démarche d'un auteur de livre. Et en fait, ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, c'est on partage la quatrième de couve, parce qu'on regarde l'étiquette.
D'accord, ouais.
On va boire le vin et on va tout de suite en causer, sans avoir de relation intime avec lui. Qu'est-ce que tu fais quand tu prends un livre? Ou même, on a causé des podcasts, que grâce à toi, d'ailleurs, je te remercie Laurent, tu m'as fait découvrir l'univers du podcast. J'en écoutais un peu comme ça, mais vraiment, c'est fascinant. Qu'est-ce qu'on fait? On l'écoute. On parlait, tu vois, on en a parlé tout à l'heure, avant le moment qu'on passe ensemble. Chacun en est là et on partage, mais on ne peut pas partager, on ne va pas tout... Enfin, il faut le temps.
Bien sûr.
Et en fait, la relation intime au vin, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut le goûter. Alors, quand tu ouvres ta bouteille avec d'autres, il faut quand même passer un moment où il ne faut pas tout de suite parler « Ah, oh, ils sont ça oh, !» Chacun vit un petit peu et après, on discute.
Voilà. Alors, tu as parlé de tes travaux de recherche, tu as parlé de tes conférences. Tu n'as pas dit aussi qu'il y avait encore un autre...
Alors, j'ai commencé à faire de la transmission. Donc, j'ai travaillé avec le lycée Victor Considérant sur un super projet qui s'appelle Sur les traces de Marcou, qui est un projet donc, qui est mené par le PCC Louis Pasteur, parce que Marcou est un personnage de Salins, qui est un géologue qui était contemporain de Pasteur et de Courbet. Et en fait, c'est le géologue qui est très connu aux États-Unis, parce que c'est lui qui a fait l'analyse géologique pour faire la Pacific Airways.
D'accord.
Donc, et le terme jurassique vient de lui, et c'est lui qui a fait le lien entre les terroirs, les jurassiques qu'on voit aux États-Unis, dans l'Ouest américain, et le jurassique français. Et il est de Salins. Et il est très peu connu.
Il n'était pas adhérent à l'association Made in Jura, malheureusement. Ça aurait été un bon client.
Ah oui, ça aurait été tout à fait.
Parce que, voilà, Pasteur a été effectivement excellent pour la promotion du Jura. Mais effectivement, je ne connaissais pas Marcou. Alors, voilà, merci d'avoir partagé tous ces élans. Et c'est passionnant. Je crois qu'on pourrait durer encore des heures. Mmh. Mais je ne sais pas si on a encore des gens qui nous écoutent. Mais alors, Chose intéressante et là aussi encore originale. Bon, tu étais restaurateur, tu es aujourd'hui un artiste, et pourtant tu es un adhérent de Made in Jura. Et qu'est-ce que tu es venu y chercher? Qu'est-ce que tu y trouves? Voilà, dis-nous un petit peu ce rapport que tu as aux autres et à ce collectif.
En fait, je crois que j'ai envie de me poser la question de l'art dans l'entreprise, parce que moi j'ai travaillé avec l'art dans l'entreprise. Et aussi de partager. Est-ce qu'il y a, je trouve ça fascinant. Il y a un monde qui me fascine, qui est l'industrie, l'entreprise, qui n'est pas la restauration, justement. Et je trouve ça, et les podcasts sont super pour ça, d'ailleurs. Et je trouve qu'il y a, j'aime bien les ponts, j'aime bien être ancré dans des, je crois que c'est le fait, j'aime bien l'essence même de l'association. Et je trouve que c'est bien de pas, tu vois, on est sans être chef d'entreprise, mais je crois que c'est important de partager mon expérience. Moi, j'ai vraiment envie de pouvoir la partager. Je pense qu'il y a, c'est en particulier sur la créativité. C'est possible d'avoir des solutions créatives quand on a des trucs. Après, un de mes rêves serait de transmettre cette partie-là que j'ai développée dans l'entreprise. Oui. Parce que la créativité, je l'utilisais pour analyser les bilans. Si tu veux, c'est utilisé dans tout. Tu donnes encore un peu, juste un petit exemple bien concret de l'utilisation de la créativité. En fait, j'ai diminué mon équipe en 2012, 13, 14, on commence à fonctionner plein pot le midi. Et refonctionner plein pot le midi. Elles sont que deux en salle. Et t'arrives, donc tu te dis, trois, je peux pas. Voilà.
Économiquement, tu veux dire.
Économiquement, c'est pas possible. Ouais. Par contre, t'as le potentiel, mais le service est moyen, puis elles se fatiguent. Les filles à deux, donc tu refuses, c'est pas bon le midi de refuser. Mais trois, ça va pas. Donc tu dis, bon, ça va pas, tu vois que les chiffres. Et en fait, donc la problématique, c'est de te dire, bon, j'ai une question, c'est que là, j'ai un problème à résoudre, qui est le fait qu'il faudrait qu'il y ait trois personnes en salle le midi. C'est vraiment, ça rassurerait tout le monde. Donc j'essaye de voir. Et puis, d'un seul coup, t'as un truc qui se fait. T'avais déjà parlé à un autre moment, il y a longtemps, du fait du deuxième café, que si tu reproposes un deuxième café, on le vend. Et puis là, t'as un tilt. C'est un tilt, c'est pas une analyse. C'est d'un seul coup, donc t'as ce truc qui se turlupine, où tu sais que pour ton équipe, c'est important. Et puis là, tu vas voir ta responsable de salle, tu lui dis, il y a le deuxième café, là. Vous en vendez quoi? Tu regardes tes chiffres, tu dis, tiens, on vend plus de deuxième café, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et là, tu calcules, tu dis 20... 40 personnes, moitié de café, 50% à peu près, tu fais 20 cafés, allez, il y a 20, parce que le café était compris dans le menu du jour, mais pas le deuxième.
Oui.
Donc le café chez nous était assez élevé, parce que c'était le café de Guadeloupe, et donc c'était à 1,50, tu fais multiplié par 20, ça fait 30 balles, 2 heures d'extra. Donc tu dis, t'as un truc, t'as une idée, donc tu dis, écoute, là il y a deux, ok, on réfléchit à ces 2 heures de travail-là. Par contre, je vérifie le nombre de cafés. Voilà. Non, puis je le vérifie.
Ouais.
C'est le nombre de cafés. Elle me dit, évidemment. Et donc là, et en fin de truc, tout de suite, même ta responsable de salle, elle est là, avec l'extra qui débarrasse, tout le monde, c'est deuxième café, deuxième café, deuxième café. Et là, tu finances, tu augmentes ta qualité, et le chemin qui m'a amené à résoudre ça, c'est un chemin de créativité.
Ouais.
Ça, je peux te le dire, c'est pas du tout, il y avait l'analyse concise et la connaissance des choses, mais c'est le chemin de la créativité.
Écoute, voilà, si on a des entrepreneurs qui nous écoutent, la sauce organise quand même pas mal d'événements où on est là pour se rencontrer dans des moments qui peuvent être conviviaux, mais pas que. Hein. On a vu le salon de la marque employeur où tu étais là et où tu as participé. C'était vraiment génial de pouvoir vraiment mélanger toutes ces ressources qu'on a dans le Jura. Et justement, ce que tu expliques, le fait que il est intéressant de rentrer dans les entreprises avec des éléments nouveaux et innovants, parce que ça oblige un chacun à regarder un petit peu ailleurs. Alors écoute, on a déjà été très long. Hein. Nos détracteurs vont, en tout cas ceux qui nous reprochent la longueur, ils seront peut-être plus là. Alors pour les autres, tu sais qu'on a toujours un peu des questions récurrentes. Donc cette fameuse baguette magique, si je pouvais t'organiser un déjeuner, une soirée, un week-end avec un jurassien, une jurassienne, tu as eu beaucoup de références, hein, mais une personne qui t'inspire le plus, avec laquelle tu aimerais refaire le monde. Est-ce qu'il y a une personne que tu
Là, j'ai les deux post-quêtes d'avant, il y a François de Fougère et puis Julie Labourrier. Je trouve entre l'histoire de Diagère, qui est plus en moins, et là, la fraîcheur de
Julie.
Oh, c'est juste, c'est, enfin, tu vois, moi qui ai toujours eu une, une attirance. L'industrie me passionne. Ouais. Je sais pas, parce que moi, j'aimais une dynamique avec des gens avec qui je suis tout le temps.
Oui.
Sur un service où tu résous tout, tout de suite. Et tu passes le service, de toute façon, tu passes à celui d'après, même s'il est raté. Et là, l'industrie, tu fais des trucs, tu fais des choix, des dizaines de vues de plusieurs années. Enfin, je trouve ça assez.
C'est vrai que bon, les deux podcasts sont très intéressants. Bon, moi, j'ai la chance de bien connaître François, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Enfin, bon, alors, il va pas aimer s'il écoute le podcast, parce que c'est quelqu'un qui est très humble. Mais par contre, voilà, il conduit son entreprise et il conduit sa vie de manière remarquable. Il va à concilier plein de choses. Il a une dimension RSE dans son entreprise qui est juste un modèle assez exceptionnel. Et puis, voilà, ça reste une personnalité en plus. Il a une pratique sportive sur laquelle je fantasme, parce que c'est en plus quelqu'un qui est dans l'ultra-trail et qui est capable de faire des choses complètement folles. En te disant qu'en fait c'est donné à tout le monde. J'ai dû louper une case. Voilà. Alors tu es, j'imagine, un contemplatif. Hein. Tu as dit que tu aimais te balader, que c'était nécessaire pour toi. Tu serais capable de nous livrer ton coin de Jura secret, enfin, ou un petit coin de ton Jura secret, un site, une balade, voire un resto. Enfin bon, t'as parlé de Jean-Paul, mais malheureusement on peut plus aller manger chez Jean-Paul. Mais voilà.
Ben. Alors, ce qui est difficile aujourd'hui, mais comme c'est le podcast, ça va, quoi. Parce que ce qui est difficile, je trouve, moi, dans l'évolution, c'est la... Nous, on a des soucis de surfréquentation, quand même.
Oui.
Tu vois, en particulier de la cascade des planches. Y a un endroit qui est très, très beau, qui est pas très loin, qui s'appelle le Cul du Bré et la Roche du Feu. Qui est... Donc, à ne pas diffuser si vous y allez, à ne pas prendre de photos, à ne pas diffuser, mais à y aller. Par contre, avec grand plaisir. Mais vraiment, voilà, ça s'appelle le Cul du Bré ou la Roche du Feu, si on arrive par le haut. C'est un endroit extrêmement magique. Oui.
Sur un bois qui sont magnifiques.
Ouais, voilà.
Bon, bah écoute, alors on ne le dira pas trop fort. Hein, voilà. Alors, une petite question, mais on a dû te la poser et on te la pose souvent. La cuisine te manque ?
Déjà, je cuisine pour les miens, donc ce que j'ai jamais fait.
D'accord.
Donc ça me manque.
Ça plaisir,
non, ce qui là me pose question en ce moment, tu vois, de fait d'avoir commencé la transmission. Avec un sur l'art, et là j'ai du contact avec le CFA aussi, et CFA de Jevinger, et là je me pose vraiment la question de la transmission aux apprentis,
marier les deux
de ce côté là parce qu'en fait ce qui me manque un peu dans, si tu veux, on est ce que j'équilibrais au restaurant, c'est entre une clientèle qui était plutôt, ce qu'on était dans une gamme plutôt aisée, faut pas, oui. Voilà, tu vois, non. Et mais derrière j'avais des gens qui venaient du peu du dur, quoi.
Oui.
C'est jamais bien cet équilibre. Et là, ça cet aspect-là qui me manque. Un peu d'être, tu vois, dans le milieu artistique, t'es, oui, pareil, t'es sur des gens qui sont magiques, qui sont cultivés plus ou moins, mais qui sont ouverts. Et là, je trouve, j'aimerais bien transmettre par la matière à des jeunes. Et c'est vrai que là, c'est vraiment la chose que je me pose aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais de cette expérience, et
d'accord.
Voilà.
D'accord. Et tu aurais une personne à nous recommander sur ce podcast? Bon, on va. Bon, je rêverais de réinterroger François, mais bon, Olivier Morin l'a fait tellement bien. Voilà. Donc. Au-delà de Julie et de François.
Bah, je pense que ce serait intéressant. Bah, dans Made in Jura, je pense que Margot Lecoeur, voilà, qui est juste ma voisine, qui est juste incroyable.
Couple, voilà.
Après, si on, hors du podcast, je pense qu'il y a une personne qui serait intéressante, c'est Cédric Fasnet de Scène du Jura.
Oui.
Qui, je pense, a un parcours, parce qu'il y a Made in Jura, il y a Scène du Jura. On est la seule scène nationale en France qui est sur plusieurs sites itinérantes. Et ça, c'est un projet qui est assez dingue, et on a une chance incroyable d'avoir ça, d'avoir ici, en fait.
Ok, bon, ben on retient. Il y aurait une question que tu aurais aimé que je te pose, et que je ne t'ai pas posée, ou des questions, mais bon, on a déjà été long.
Déjà, je suis long. Déjà, merci déjà de passer ce moment. Merci à ceux qui nous écoutent. Je crois... Non, j'ai envie de redire quand même ce qu'on a juste abordé, mais tu y es sensible aussi, c'est-à-dire que l'aventure, elle est possible parce que, dans mon cas, c'est parce que j'ai une femme extraordinaire, quoi. Donc ça, c'est, on en parle, c'est jamais oublié. Tu prends pas des décisions comme ça si t'as pas quelqu'un qui est pas du tout dans le même fonctionnement que moi, mais qui laisse cet espace de liberté, ça c'est clair.
Écoute, tu as commencé avec ça, tu finis avec ça, je trouve que c'est vraiment... Non, mais c'est vraiment très beau, et voilà. Alors, où est-ce qu'on te suit? Est-ce que tu as des expos? Est-ce que tu as un site? Est-ce que tu as un Insta?
J'ai un Insta, j'ai un Facebook. On peut aussi aller sur mon site et s'inscrire à la newsletter,
oui.
Parce que c'est là où il y a le plus d'infos.
Communique
qui passe.
Plus, ouais.
Là, je vais exposer au hamac pour la percée.
D'accord.
Donc le hamac et donc la nouvelle histoire de ce lieu
magique aussi. Voilà, magique, si on cherche un livre fantastique.
Voilà, donc dans les anciens murs, enfin dans les murs
de chez toi. Ancien, voilà, enfin, voilà, voilà, la balance. Ouais.
Mais c'est vraiment un très très bel endroit. Donc, je suis content.
Une belle personne, donc ouais, voilà.
Exactement. Ce qui est aussi extrêmement. Et,
on a accueilli Alice. Son fils en. Allez, on a accueilli son fils en stage de 3e.
D'accord.
Et je trouve que c'est des gens adorables.
Et puis, on a eu l'occasion, parce que j'ai déjà exposé au mois de juillet là-bas. C'était un moment très fort. Et je trouve ça extraordinaire, parce qu'en fait, on n'allait pas dans les mêmes choses, mais c'est une autodidacte. Elle est passionnée. Elle respecte le lieu. C'est une très, très belle énergie. Enfin, je ne me suis pas du tout senti dans la nostalgie, et au contraire, quoi, dans un lieu. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, pour la percée, il y a la dernière percée, je cuisinais du coq. Et ben là, ce sera au milieu des livres et on mettra quelques peintures.
Écoute, voilà. Elle serait une très bonne cliente pour le podcast, oui, parce qu'elle a vraiment un parcours très, très riche. Comment on fait pour te contacter?
Oh bah par mail ou sur
mon téléphone. Par mail ou ton site, on arrive,
oui.
Sans problème.
Oui, ou pas hésiter à m'appeler aussi. Hein.
Okay.
Si les gens veulent... La seule chose qui est importante, c'est l'atelier est ouvert.
Alors, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut venir te voir, enfin, voir ton atelier?
Sur réservation.
Sur réservation.
Parce que si je suis en créa, j'ouvre pas. Donc,
normal, voilà. Normal, ok. Écoute, merci beaucoup et merci à tous si vous nous avez écoutés jusque-là.
Ben, merci Laurent, merci à tous de nous avoir écoutés. Et... Pardon. Et puis, bah, c'est vrai qu'on est un petit peu en longueur, mais c'est aussi le podcast et je trouve ça magique. Merci beaucoup.
À tout bientôt. Merci.
Merci d'avoir rencontré avec nous les personnalités qui incarnent les savoir-faire jurassiens.
Vous aimez notre carte postale sonore?
Merci de la partager autour de vous.
D'en parler à vos amis, votre famille et vos collègues.
Et de la noter 5 étoiles sur votre plateforme préférée.
Rendez-vous sur le site de l'association Made in Jura.
Madeinjura.pro
ou sur jurawelcome.fr pour retrouver tous les épisodes du podcast.
Et inscrivez-vous à notre newsletter pour être tenu au courant de ce qui bouge dans le Jura.
À bientôt sur Jura Welcome.